À la fin, le gars il dit un truc bizarre de la chanson. Il fait Yahoo! Lui, c'est un cri de joie, un cri pour célébrer l'amour et la joie dans le monde. Et moi aussi, je fais Yahoo! Ce matin, comment ça va, bande de beaux gosses? Bien. Est-ce que les virus sont là? Est-ce que hier j'ai fait un sondage, une part non négligeable du chat n'était pas malade, ce qui était assez exceptionnel. D'après mes sondages personnels dans le quartier, les virus circulent beaucoup cette année.
Si,
T'as maladie? Pas de virus ici? Il fait froid? Ouais, ça caille, ouais. Pas de malade, mais trop mangé? Alexis, rien signalé? Oui! Espèce de commu immunisé. J'ai passé outre la maladie. Sam, pourquoi tu me demandes si on a des virus? Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup cette année. Je vois beaucoup de gens autour de moi malades. Ils sont là? Madelanois, ils sont là. Toute la famille est malade suite à mon virus, voilà. Dit Sugar. J'ai pris 10 kilos, mangeur de poisson. Mais c'est toi qui disais que t'étais pas en forme tout à l'heure, c'est parce que t'as pris un peu de poids. J'ai discuté avec ma belle-maman il y a quelques jours qui me disait que la légende des 3 kilos pris pour les fêtes, c'était une légende. Qu'elle avait vu un article de médecin là-dessus et que tu pouvais pas prendre 3 kilos pendant les fêtes. Ah, tu prends. Non, c'est pas possible. Enfin, j'espère. J'ai fait attention cette année. Salut, c'est Sansoé. Merci pour ton message et pour le soutien. Bonjour, je ne suis pas souvent en direct, mais je regarde tous les jours en replay. Content d'être là en direct. Tu sais, c'est Sansoé, que maintenant on est en podcast audio, hein, sur toutes les plateformes de podcast. Spotify, Deezer, Tutti Quanti, qui est une nouvelle plateforme que j'aime beaucoup, Apple Podcast et tout, quoi. Je suis étonné du nombre de personnes qui écoutent en podcast. C'est une folie le podcast. J'ai juste la maladie d'amour, me dit Tom Tom San, c'est beau ça. Le mois dernier, mais pas là, me dit Nawal Paris. Ok. Ok. Oh, c'est mignon, petite dédicace à mon fils cadet qui fête ses 18 ans. Bon anniversaire, je suis fier de lui. Emma, on fête tous un bon anniversaire à ton fils cadet qui a ses 18 ans. Diesel dit au minimum 5 kilos. Non. Non. Ça dépend. Waouh, Sugar le poète. Ça dépend si on se pèse avant ou après le passage aux toilettes. Ok. Ah non, c'est trop tôt là. Arrêtez. Non, pas d'histoire de caca. Les gars, on essaie de donner de cette chaîne une image un peu carrée, tu vois, un peu rigoureuse, un peu, tu vois, la chaîne où on parle d'infos. Vas-y. Bon courage, Fury, pour cette matinée toute seule au boulot. Oh, les bons anniversaires au fils cadet trop mignon. Salut Jérôme. Comment ça, mais c'est carré le caca? Oh, arrêtez. Ah, cette chaîne d'enfants, quoi. Bon, comme le dit Anonyme 31 à l'instant dans le chat, oui, c'est le retour de la revue de presse. Voilà, c'est le retour de la revue de presse. On s'est arrêté pas beaucoup, hein. On s'est arrêté une semaine. On s'est arrêté une semaine pour les fêtes, sachant qu'on a quand même streamé lundi. Et mardi, un stream de 24 heures quand même. On a streamé hier soir aussi. Bon, mais c'était du Valo et c'était du Skyrim. Donc effectivement, on a fait une pause d'une semaine de la revue de presse. Donc là, on reprend non-stop. Hein. On reprend non-stop. Pouh, je pense pas qu'on s'arrête en février. Je pense pas qu'on s'arrête en février. Ben, j'ai pas prévu d'arrêt. Est-ce qu'il y a un arrêt en février? C'est pas sûr. Peut-être. Pas beaucoup. Ouais. Et pas que. Pas. Non. C'est entre non et pas beaucoup. Voilà. Coucou Samuel, j'espère que tu vas bien. Peux-tu dire bonjour à mon papa Pierre qui te voit pour la première fois sur Twitch? Salut Ambre, bien sûr. Bonjour Pierre. Je trouve ça trop mignon d'avoir des enfants dont les parents sont suffisamment chers à leur cœur qu'ils passent des messages comme ça. Est-ce que tu peux dire bonjour à mon papa Pierre? Je trouve ça trop charmant. J'espère que quand mes enfants seront en âge de regarder des streamers, trop jeunes, j'espère qu'ils passeront des messages comme ça. Hé, Ava, est-ce que tu peux dire bonjour à mon papa Samuel qui te regarde? Et à ma maman aussi pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Rush jusqu'en juillet. Oui, mais on s'arrête pas non plus en juillet, vous savez. En juillet, je suis en Corse, comme chaque année. Mais je stream tous les jours puisque j'emmène mon setup et j'ai de la fibre là-bas. Donc. Bien remis la grippe? C'est pas une grippe, c'est pas une grippe. petit coup de froid, quoi. Ah, d'ailleurs, on en parlera ce matin. Parce qu'en fait, la légende, le vrai du faux du froid. J'ai un article là-dessus. Mm. Merci Nicolas. Merci Nicolas pour le 26e mois. Merci Tortue Haché pour le 5e mois. 6e mois, nom de Dieu. Merci CC pour le prime. Oui, il est beau ce switcher, j'avoue. Finalement, tu l'as jusqu'en décembre 2026. Oui. Et puis, avec plein de nouvelles choses. Hein. Il faudra faire attention au câble RJ45 comme chaque année. Mais oui. Mais chaque année, j'achète un... Chaque année, j'achète un câble RJ45 de 20-30 mètres. Parce que ma pièce où je stream est très loin de la box. Et je déteste stream. De toute façon, j'ai pas le Wi-Fi. C'est trop loin. Et chaque année, je le perds. Je perds un câble de 30 mètres. Je ne sais pas ce que j'en fais. Voilà. Bon, c'est pas ça qui coûte cher, remarque. Mais... Donc oui. Est-ce que tu as passé ton appel de 4h46? Ah non, oui. Quelqu'un m'a appelé il y a deux jours à 4h46 du matin, samedi soir. Quelqu'un qui m'appelle à 4h46 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Un numéro que je ne connais pas. Un numéro 4h46 le samedi soir ou le dimanche matin, c'est selon. On est sur du coup de fil bourré, quoi. Alors j'ai rappelé le lendemain avec une voix très très sévère en disant bonjour. Vous allez chercher à me joindre à 4h46 du matin. J'aimerais savoir qui vous êtes. Comme ça. Et je vous rappellerai. Comme... Et je voulais. Vous voyez, comme je suis pas. Au fond de moi, je suis pas méchant. Hier soir, j'ai bossé jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, j'ai lu les journaux pour ce matin. Après mon stream Skyrim. Et je me dis, je vais rappeler à 2h du mat. Pour lui rendre la monnaie de sa pièce, tu vois. Bonjour, tu dors? Voilà. Et je me suis dit, c'est méchant. Vous voyez? Je l'ai pas fait. Je me suis dit, ça n'est pas toi, Samuel. Ça n'est pas toi. On va l'appeler maintenant, par contre. Là, ça va, là, il est 10h05. Je vais le rappeler. Là, c'est plus correct. Je suis pas méchant, au fond de moi. Je suis un bon gars. Trois sonneries. Mais seulement, personne ne veut plus répondre à ce numéro. Bonjour, comme promis, je vous rappelle, vous avez cherché à me joindre dans la nuit de samedi à dimanche à 4h46 du matin. J'aimerais savoir qui vous êtes. Je vous rappellerai. Hey Martin, merci pour le raid. Notre DJ préféré. La forme toujours incroyable. Celui qui ambiance vos matinées. Merci Martin. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Les moudos, n'hésitez pas à épingler cette chaîne Martin _M2X. C'était moi au téléphone. Martin, t'as suivi mon histoire? Il y a un mec qui m'a appelé à 4h46 du matin samedi. Je le rappelle depuis pour savoir qui il est. Non, Captain Oui. La chaîne, pas le message. Merci Captain Oui. Mais plutôt la... Voilà. Merci Sugar. C'était pour que les gens suivent Martin. Merci beaucoup. Merci, Captain. Attention, il y a une arnaque en ce moment. Son numéro est détourné. Il vous appelle sans laisser de message pour qu'après vous rappeliez la personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Je ne sais pas quel est le but de cette arnaque, mais c'est super pénible. Ah, tu penses que ça pourrait être ça? Tu penses que ça pourrait être... Ouais, mais après... Merci, Captain Mobi. Après, la personne... Dans ce cas-là, la personne pourrait m'envoyer un message. En disant, bonjour, je ne vous ai pas appelé à 4h46 du matin... Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, quoi. Mais bizarrement, cette personne a eu ce deuxième message maintenant et ne rappelle pas, quoi. Et me filtre même. Donc, j'irai au bout de l'enquête, hein. Et j'irai au bout de mes rêves aussi. Voilà. J'irai au bout de mes rêves. Voilà. Parce qu'il faut pas déconner quand même non plus. C'est-à-dire qu'on est gentil ici. C'est la ligne éditoriale. Je parle à Papa Pierre qui nous regarde peut-être encore s'il n'a pas lâché l'affaire en disant « Ok, ce mec est fou. » Il a pété un câble. La ligne éditoriale ici, c'est « On est gentil. » Mais on se laisse pas marcher dessus. Voilà. C'est un peu la, c'est la ligne éditoriale ici. On tend assez facilement la première joue, mais pas la deuxième. Voilà, c'est un peu ça. La gentillesse n'est pas la faiblesse. C'est la ligne éditoriale de cette chaîne. Et on fait des blagues aussi. On parle beaucoup de caca. Bon, bon, on va y aller. Je reçois un coup de fil d'Arc, de Dark Samus, je résilie la ligne. Peut-être que la personne va résilier la ligne. Tu le fais peut-être flipper avec tes messages sur répondeur, il te prend peut-être pour un fou. Ah, merde. Merde, tu crois ? Non mais la personne m'a appelé à 4h46 du matin, quoi. Quand même ! Voilà, comme le dit Kamakin is back, est-ce que vous allez vous aimer, bordel de merde ? Voilà, c'est un peu la ligne éditoriale de cette chaîne. Ça tout saute, hein, ça tout saute. Il me donne envie ce petit café, j'avoue. Est-ce qu'on va parler de Brigitte Bardot ? Oui ! Mystique Punisher, obligé, hein. Obligé. Oui, c'est un 06, c'est un 06. C'est pas un 07, c'est un 06. Faut pas faire une erreur de numéro avec Samuel, non. Enfin, pas à 4h46 du matin. Dans les mouchoirs dégueulasses sur le... Tu peux faire des... Tu peux te tromper de... Mais tu m'appelles pas à 4h46 du matin. Le samedi soir. Non. Non, c'est tout. Il faut des règles. Il y a un moment, il faut des règles. Il faut des règles, c'est tout. Moi, je pense qu'il faut des règles. Voilà. T'es peut-être un ancien collègue japonais qui t'appelle depuis Okinawa, ça collerait bien. Alors, c'était plutôt dans la région de Sapporo. Enregistre sur WhatsApp pour voir. Mais pas con. Pas de pépé. Comme par hasard. Si c'est dans tes contacts, tu as son nom sur WhatsApp. Non, non, pas de pépé. Ah, je l'ai enregistré, moi. Pas de pépé. Comme bizarre, comme c'est bizarre, comme par hasard. Tiens donc, l'enquête se poursuit. Tiens donc. Imagine, c'est Brigitte Bardot, c'est pour ça que ça répond plus. Oh la vache. Je dois reconnaître que c'est la meilleure vanne de ce matin.
Oh, elle est atroce.
C'est Brigitte Bardot. Oh, vous êtes... Elle est... Waouh. Waouh. Elle est dure, mais elle est forte. Peut-être. Oh. Le micro, c'est un Shure. SM7B, c'est un classique Picacorn chez les streamers. C'est un bon micro. Salut Marine Swim. Est-ce qu'on va parler de son œuvre ou des faits pour lesquels elle a été condamnée ? Les deux. On fait tout ça ici, on fait les deux, bien sûr. La vanne est un peu rude, oui, bon, enfin bon. Bon, en tout cas, je suis heureux de voir cette bonne humeur dans le chat. C'est le micro de Michael Jackson, dit Martin Martin. Tiens donc ! Ça nous fait deux points communs avec Michael Jackson. Tiens, dis donc. J'ai le même micro que Michael Jackson, me dit Martin Martin. Ça alors ? Ça fait deux points communs. Je ne pensais pas avoir autant. Non, c'est pas le compte en banque. Non, 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 non. Je ne pensais pas avoir autant de points communs avec Michael Jackson. Attention aux points communs avec Michael Jackson. Martin, Martin me dit, tu ne savais pas, Samuel, ce micro a été développé pour Michael Jackson. Non, c'est pas la voix. Je n'ai pas la même voix. Non, c'est pas le compte en banque. Non, le moonwalk. Le moonwalk. C'est moi qui lui ai appris. C'est moi qui lui ai appris. Est-ce que tu vas parler du... Non, juste j'ose, non. Non, on ne tire pas sur les ambulances. Non, moi, je ne suis qu'amour. Il y a des gens dans la vie qui préfèrent... Je ne cite même pas la polémique évoquée à l'instant. Il y a des gens dans la vie qui préfèrent utiliser une partie de leur énergie vitale pour créer de De la négativité, de l'agressivité, de la violence verbale, même parfois physique. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Donc moi, je ne parle pas de ça. J'ai de la tristesse pour les gens qui vivent ça, qui vivent pour ça. Mais je n'ai pas de haine contre ces gens, je n'ai que de la tristesse pour eux. Mais on va pas. Par contre, je cherche un mot un peu chrétien, tu vois, un peu chaleureux. J'ai commisération dans ma tête, mais c'est pas ça. Commisération. Commissariat, non? Ça existe, la commisération? Commisération, non féminin. Sentiment de pitié qui fait prendre part à la misère d'autrui. Nom de Dieu! Je l'avais. Je me dis, ce mot, je viens de l'inventer. Commisération, sentiment de pitié qui fait prendre part à la misère d'autrui. Par commisération, je ne veux même pas donner de la force à ces personnes-là, parce que j'ai pitié. Putain, je l'avais. Je pensais que je venais de l'inventer. Incroyable, il me reste des lettres. Ok, je pensais vraiment que j'allais utiliser ce mot que j'avais mal utilisé. Très bien. Ouais, et ben c'était ça, commisération. J'ai beaucoup de pitié. Mais de qui il parle? Mais justement, je ne le dirai pas, parce que je ne veux pas donner, par commisération, je ne donnerai pas de force aux gens qui cherchent la petite polémique à la petite semaine, là, les mendiants du clic. Les mendiants du clic, les mendiants du buzz, là. Hein. Ne leur donnez pas la pièce, les gars. Ne leur donnez pas la pièce. Vous les encouragez dans leur misère affective et intellectuelle. Non, hein, ce n'est pas bon, pour d'abord pour ces personnes-là. Bon, on commence la rue de presse. Pardon. T'as un petit sommaire? La peur mène à la colère, qui mène à la violence, qui mène à la force obscure. Exactement, empereur poil poitrine. Le sommaire. Ok, on y va. Je suis content de vous retrouver. Ok, c'est parti. Sommaire. Et je remercie encore l'ami Boubou, hein, qui nous a concocté ce magnifique sommaire interactif que vous voyez ici, qui nous régale, ouais, qui donne en plus les time codes, les TC, les horaires pour ceux qui nous écoutent en replay. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch. 5 ans que nous lisons les journaux tous les matins, voilà, que nous échangeons sur l'actualité, que nous discutons de la façon la plus paisible le matin, du lundi au vendredi, et même bientôt le samedi, voilà. C'est sur Twitch, c'est en direct, et depuis septembre, c'est en replay tous les jours à partir de 15-16 heures en podcast audio, voilà, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Je n'en reviens pas du nombre que vous êtes à nous écouter en revue de presse. 5 ans et la calvasse n'a même pas progressé, dit Candy Batch. Ça n'est pas faux. Merci d'être là. De quoi je vais vous parler ce matin? On va regarder. Le premier sujet, donc on va commencer par le sommaire. Le sommaire, c'est quelques minutes, vite fait, pour donner l'essentiel de l'actualité à ceux qui ne peuvent pas rester 2-3 heures avec nous, puisque cette revue de presse va durer à peu près 2-3 heures, ok? Donc je vous donne ça en quelques minutes, pour ceux qui ne peuvent pas rester, comme ça vous savez de quoi on parle, ce qu'il y a dans l'actualité. Pardon pour la méchante toux. Brigitte Bardot, alors je pourrais vous montrer tous les journaux. Beaucoup de une ce matin, beaucoup de une consacrée à l'ancienne comédienne, donc qui vient de décéder, hein, pour ceux qui l'ignoraient. Donc il y a beaucoup d'articles sur Brigitte Bardot ce matin. La palme revient au Parisien, qui a consacré, je pense, une dizaine de pages à Brigitte Bardot. Voilà, je vous lirai pas les 10 pages, bien sûr. Et donc j'ai choisi de vous en parler à travers deux journaux. J'aurais pu en choisir beaucoup plus. Le Parisien et Libération. Libé aussi 10 pages. Je crois que Le Parisien fait plus encore, vous allez voir. C'est pas un concours, hein, on va compter. Éternel bébé, 1934-2025. C'est une jolie photo, du Parisien. L'idole qui ne voulait pas être star, nous dit le journal. Vous avez dit iconique, s'interroge Emmanuel Marolles dans son édito. Voilà. Parisien qui se penche sur tous les aspects, parce que Brigitte Bardot avait une vie bien remplie. Et on peut parler de plein de choses. On peut parler de sa carrière cinématographique, dans la chanson, du symbole qu'elle a pu être, sur plein de sujets, de sa lutte, son combat pour les animaux, et puis de ses propos aussi, problématiques. Tout ça, les journaux en parlent ce matin, voilà, Le Parisien notamment. Libération, très belle une de Libé. Très belle une de Libé. Alors Libération, il faut le savoir, ce sont des champions pour un truc. Voilà. Libé, personne n'arrive à la cheville de Libé pour les morts de gens. Quand quelqu'un meurt, la plus belle une, la plus belle photo, c'est Libé. Ils sont forts. Ils sont très forts. Voilà. Je n'aurai hélas pas ma tête en une de Libé quand je vais mourir. Et c'est bien dommage. Bébé, face A, face B. Et oui, Brigitte Bardot, quand on évoque le nom de Brigitte Bardot, eh bien on évoque le symbole incroyable qu'elle a été sur plein de sujets, et puis aussi face A, et puis face B, les propos problématiques que j'évoquais tout à l'heure, notamment les propos racistes. Quoi. Face A, face B, voilà. Quelqu'un me disait dans le stream hier soir, j'ai vu la une de Libé, je ne comprends pas le titre. Le titre, il est assez incroyable en vrai. Icône même, je disais moi, icône a deux faces, icône a trois faces, dit même Didier Perron dans son édito ce matin, on le lira. Bye bye bébé, titre Libé, voilà, avec un article, mais très complet, qui fait plusieurs pages, voilà. Et puis plein de sous-articles, mais je vous lirai qu'une partie de ces dossiers, sinon on va y passer la journée. Voilà. Et quand je disais face B, face B, c'est notamment ce qui évoque Libération dans ce titre ici, page 11, une longue dérive vers la haine raciale. Mais ce qu'il faut constater quand même, c'est quand même, moi je c'est un truc que je ne sais pas faire, la pagination, l'importance de la pagination du nombre de pages consacrées à ce sujet. Je ne m'attendais pas à autant d'articles. Hein. Le Parisien, donc la une page, enfin on va dire une page, deux pages, trois pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, 9 pages, 10 pages, 11 pages, 12 pages, 13 pages, 14 pages, 15 pages, 16 pages, oui on a vu des fesses à un instant, 17 pages, 17 pages, c'est fou. 17 pages. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Alors, bon, Brigitte Bardot, pour moi, j'ai beau être vieux, c'est une époque encore plus ancienne que moi. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui. J'avoue qu'il n'y aurait pas eu toutes ces pages, je ne vous en aurais pas parlé, moi, ce matin, de Brigitte Bardot. J'ai vaguement vu ses films, je crois pas. Si, j'ai entendu certaines de ses chansons, avec notamment Serge Gainsbourg, mais. Vous voyez ? Mais bon, ça m'a étonné. Et Libération, une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, six, sept. 8, 9, 10, 11, 11. Voilà. Donc, comme je disais, la palme aux Parisiens. Mais quand même, 11 pages dans Libération. Voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, je vous en parlerai, mais je ne vous en parlerai pas. Je ne vous lirai pas 17 pages. Je vais vous lire quelques articles. Quoi. Okay. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans l'actualité aussi, je poursuis le sommaire, c'est cette histoire autour de Monsieur Breton, Thierry Breton. Hein, qui est, si j'ai bien compris, interdit, l'ancien commissaire européen, interdit de séjour aux États-Unis. Persona non grata aux États-Unis. Voilà. Je lis l'opinion ici. Les responsables politiques européens ont vivement critiqué la décision de l'administration Trump d'interdire de séjour aux États-Unis 5 personnalités, dont l'ancien commissaire européen Thierry Breton. La commission a demandé des clarifications et promis, si nécessaire, une réponse rapide et ferme. J'ai vu passer ça ces derniers jours. Et en fait, je comprends notamment grâce à cet article que c'est la volonté européenne, de l'Union européenne, de régulation, d'encadrement du numérique, d'Internet, des réseaux sociaux notamment, et de l'IA aussi, qui provoque la colère de Washington. C'est passionnant. C'est passionnant. Voilà. Donc un nouveau conflit entre les États-Unis et l'Union européenne sur fond de, sur ce fond. Il y a même un édito dans Le Monde sur le sujet. J'ai pensé important de vous en parler ce matin. Voilà. À tort ou à raison, moi ça m'intéresse plus que Brigitte Bardot par exemple. Voilà. Les Échos. Alors il y a Brigitte Bardot bien sûr, mais il y a aussi ce premier titre. Logement, une crise européenne. Alors pour moi qui répète stream après stream que je ne comprends pas que la crise du logement en France ne soit pas une priorité absolue pour d'abord pour les politiques et pour les médias aussi qui en parlent, mais pas assez. Voilà. Je suis très content de voir ce titre en une des Échos. Logement, une crise européenne. Les difficultés à se loger en Europe sont telles que la Commission européenne s'est emparée du dossier. Manifestement, ça n'est pas qu'un problème qu'en France. En hausse, la hausse des prix de l'immobilier commence à avoir des effets économiques et sociaux pervers. En Allemagne ou en Italie, des villes cherchent des solutions pour rendre les logements abordables. Merci. Merci les Échos. Enfin. Mais c'est un des problèmes principaux de notre société, ça. Je ne comprends pas que les politiques ne nous en parlent pas plus. Hein, on toujours parler des mêmes sujets. Nanani, nanana, faire ci, faire ça. Mais parlez-nous du logement, surtout. Les gens ne peuvent pas se loger. Hein. Il est prouvé économiquement, scientifiquement, que l'effort pour se loger aujourd'hui, pour un jeune couple par exemple, en location ou en achat, l'effort est bien plus important qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc là, on a un problème, quoi. Donc les Échos se penchent là-dessus. L'Europe étranglée par la crise du logement. Alors ça, c'est un sujet qui me semble essentiel. Ok, on en parlera. Moi, je n'étais pas au courant, ça. On va beaucoup parler d'actualité politique à mesure qu'on se rapproche de 2027, voilà. Et puis notamment des initiatives de certains présidentiables, hein, ceux qui y pensent. Et par exemple, à propos de Jean-Luc Mélenchon, écrit Le Monde, le probable candidat à l'élection présidentielle, eh bien, il y a une histoire autour de la Nouvelle France. Moi, j'avoue, je ne suis pas un spécialiste de politique, et je n'avais rien lu encore sur ce concept de Jean-Luc Mélenchon de Nouvelle France. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle France ? Voilà. J'ai trouvé ça intéressant, donc je le partagerai avec vous, vous me direz ce que vous en pensez. Le probable candidat à la présidentielle tisse un récit national en miroir de celui de l'extrême droite, en miroir, en opposition, hein, avec sa Nouvelle France. Voilà. Bon, alors on lira ça. Peut-être que vous êtes au courant de cette histoire. Moi, pas. J'ai trouvé ça intéressant. Et puisqu'on parle de politique, avant la présidentielle, il y a les municipales. Hein, je crois que c'est dans moins de trois mois, dit la Croix. Et on se penchera sur certaines villes un peu symboliques, et notamment Paris. Paris. 25 ans après, est-ce que la droite peut revenir au pouvoir à Paris? Voilà. Puisque ça fait 25 ans que la ville est aux mains de la gauche. On se souvient de Delanoë et Anne Hidalgo, bien sûr. Et donc la Croix pose la question, est-ce que la droite peut revenir au pouvoir? La droite en la personne, a priori, de Rachida Dati. Hein. Voilà. Voilà. Et la Croix qui écrit « À Paris, aux mains de la gauche depuis 25 ans, l'explosion des prix de l'immobilier, tiens donc, qui chasse les professions intellectuelles, pourrait faire pencher la balance à droite. » Merci Eliouane, voilà, pour le 20e mois. Merci Pondiliona pour le 12e mois. Merci Arthur Rizio pour le 31e mois. Merci Picacorn pour le 2e mois. Merci Energix pour le 53e mois. Bordel, j'ai pas vu tous ces subs que je n'ai pas remerciés. C'est affreux. Merci Atude du 69. Merci Simone Wiss. Ok, je remercie personne, je suis un monstre. Merci GBLC. Ok, je suis désolé. Et puis on terminera par le vrai du faux sur le froid. Voilà. On démêle le vrai du faux sur le froid. Est-ce que le froid fait tomber malade? Est-ce qu'il faut manger plus en hiver? Est-ce que l'alcool... Est-ce que l'alcool réchauffe vraiment? Est-ce que l'alcool réchauffe vraiment? Tiens, j'ai froid. Je vais me prendre une petite cuite. Est-ce qu'une cure de vitamine C est nécessaire? Est-ce que c'est déconseillé de sortir... quand il fait froid. Ah, désolé. J'ai pris froid. Ah non, justement, faut pas dire ça. Il paraît que c'est faux. Est-ce que faire du sport l'hiver n'est pas recommandé? Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent en podcast, qui n'ont que le son là. Je traîne des petits virus, rien de méchant, mais du coup, ça tout saute un peu dans le micro. Article important, me dit que la machine is back, car tous les bullshit sur l'hiver ont la dent dure. Voilà. Le froid fait rétrécir, mais quoi, dit LBS Colonel Link. Je sais pas. Le froid fait rétrécir quoi? Quoi? Hein? J'ai pas la ref. Voilà pour le sommaire. Bon sommaire, non? Fait rétrécir les gosses. Ah, les enfants rapetissent à cause du froid? Ok. Chérie, qui a rétréci des gosses? Peut-être. Ok. Ah, les gosses! Les gosses en québécois.
J'ai la ref.
Au Québec! Allez, on a. Pardon. Ceux qui ne sont pas les habitués de ce live, je dois vous rappeler qu'il y a quelques semaines, nous avons appris que les gosses en québécois, ça veut dire les testicules. Voilà. J'avais oublié ça. Ah oui, d'accord, je l'ai. Ok, je l'ai. Désolé, ceux qui ne sont pas intéressés par nos réflexions assez poussées sur les couilles. voilà, nous avons deux, trois sujets comme ça qui reviennent en boucle ici. Dont les couilles, hein, dont les couillasses. Voilà, donc effectivement, en québécois, les gosses, c'est les couilles. D'où ce conseil aux Français qui vont au Québec en touriste ou pour travailler, éviter de dire tiens, je vais sortir mes gosses. Ou il fait froid, je vais laisser mes gosses au chaud. Ou le chat, donnez-moi des exemples. Hein. Voilà, je suis fier de mes gosses. Ou oui, il faut que ce soir que je m'occupe de mes gosses. Voilà. Oui, tu veux voir mes gosses. Oui. Tu es devant l'école, tu rencontres une maman d'élève que tu connais, tu dis tiens, est-ce que tu vois une photo de mes gosses? Voilà. J'aime embrasser mes gosses. Voilà tout ça. Voilà. Dites pas ça. D'abord, France, je trouve pas que c'est pas un mot très joli déjà. Gosse. Enfant, c'est beau. Mais au Québec, non, quoi. Voilà. Fin de la parenthèse, bien sûr. Bon, on est bien? Est-ce qu'on est prêt pour la revue de presse maintenant qu'on a fait un petit sommaire? Merci Nucci. Merci Eliwan. Merci Nucci. Oui, t'as combien de gosses aussi? Mon chien adore mes gosses, oui, tout ça, oui. Oui, on l'a compris, c'est bon. Vous êtes prêts pour la revue de presse? Putain, arrêtez de parler de ça. C'est fou ça. Le mot enfant est plus beau que le concept. Oh non, Pilou Shooter. Oh non. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Merci Lord Cornelius Hopkins. Je sais, moi je les collectionne. J'en ai deux, j'en voudrais 12. Mes gosses aiment faire du trampoline. Oh non. Prêt pour la revue de presse? Oui, j'ai votre go. On y va? Brigitte Bardot, allez, c'est parti. Go, bon. Brigitte Bardot. Bon, vous avez vu, j'ai choisi un titre très sobre. Hein. Ouais. J'ai intitulé ce thème Brigitte Bardot. Parce que je ne voulais pas éditorialiser ce titre. Je ne voulais pas dire, ah là, la magnifique Brigitte Bardot. L'éternelle Brigitte Bardot. Ou... Donc pour le cas, c'est le versant lumineux, positif, ou le côté négatif. Ah, Brigitte Bardot, la problématique, les prises de position, les propos racistes, vous savez. Voilà, je voulais rester sobre et voilà, nous distinguer de la réflexion sur X, Twitter, ou l'absence de réflexion plutôt de gens qui ont décidé que leur vie intellectuelle devait se réduire à des anathèmes de quelques mots, de quelques lettres, des mots souvent mal orthographiés d'ailleurs. Et beaucoup d'insultes sur tous les sujets. Nous, ici, on prend le temps, tranquillement. C'est un sujet dont on va discuter au moins une heure, Brigitte Bardot. Voilà. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de résumer sa pensée en quelques caractères. Il faut prendre le temps de réfléchir et d'échanger. Tout ce que les gens ne font pas sur, hélas, ce réseau du chétan X qui me surprend tous les jours. Éternel bébé, donc ça, c'est la une du Parisien. Et on va commencer à lire l'édito. Et avant... Je vous en prie, avant de vous écharper entre vous dans le chat sur Brigitte Bardot, bah, lisons sa vie, son œuvre, réfléchissons ensemble et avant d'avoir des avis définitifs et de se taper sur la gueule. N'oublions pas que nous sommes en période de fête de fin d'année et je vois de l'amour, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Ah bah oui, on écoute et on... Bien sûr, voilà. Édito de Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien ce matin. Vous avez dit iconique pour interrogation. Iconique, écrit Emmanuel. On a fini par détester ce mot employé à toutes les sauces jusqu'à l'écœurement. Une chanson iconique, une voiture iconique, une tenue sortie la semaine dernière ou presque sont déjà iconiques. Brigitte Bardot, elle, l'était vraiment. N'en déplaise sans doute à ceux qui voient des icônes partout désormais. Certes, quelques heures après sa disparition ce dimanche à l'âge de 91 ans, les plus jeunes s'arrêteront sans doute aux dernières années de sa vie, faites d'engagements politiques extrêmes et de déclarations douteuses, à son quotidien misanthrope quelqu'un qui n'aime pas les hommes, hein. Les hommes, le genre humain, recluse à la Madrague où elle tirait parfois à boulet rouge sur le cinéma, le Festival de Cannes, la Société des Hommes, à qui elle préférait les animaux. Alors, j'allais moquer de cet édito un peu très laudatif, très fasciné par Brigitte Bardot, et en fait, non, il... En quelques mots, il résume beaucoup de choses, regardez. Les plus jeunes s'arrêteront sans doute aux dernières années de sa vie faites d'engagements politiques extrêmes. Mais il dit les termes, cet article. Et déclarations douteuses à son quotidien misanthrope. Recluse à la Madrague, hein, sa propriété à Saint-Tropez, je crois, où elle tirait parfois à boulet rouge sur le cinéma, le Festival de Cannes, la Société des Hommes à qui elle préférait les animaux. On pourrait presque arrêter cet échange sur Brigitte Bardot après ces quelques lignes, parce que je trouve que ce journaliste a un peu tout résumé en quelques lignes. Voilà. C'est pas mal fait. Mais les plus anciens, écrit-il, n'oublieront jamais la sensation des années 60. L'incroyable chanteuse de tube, écrit sur mesure par Serge Gainsbourg. La sensuelle comédienne du mépris. Mépris, c'est Godard, je crois. Et Dieu créa la femme qui affola les foules et choqua jusqu'au Vatican. Et aussi la femme frondeuse qui abandonna le 7e art en pleine gloire pour défendre la cause animale. Un sujet au cœur des préoccupations d'aujourd'hui qui n'intéressait pas grand monde à l'époque dans les années 1970. Moquée, brocardée, caricaturée à outrance quand elle posait avec un bébé phoque à la une de magazine, bébé n'en avait cure. Libre, indépendante, affranchie des hommes qui ont traversé sa vie, Bardot incarnait la femme puissante, le féminisme avant l'heure, même si elle s'agaçait qu'on le lui rappelle. Tout ce qui a fait d'elle une star iconique, mot qu'elle détestait comme nous. Il est pas mal cet édito. Il y a comme un... Alors, le problème d'un édito, c'est que c'est court. Hein, et que même un édito bien écrit, bien troussé, ne peut pas résumer une carrière aussi longue et toutes les facettes, positives ou négatives, d'une personne. Mais je le trouve pas mal. Alors maintenant, on va lire et ça va prendre un certain temps. Même si certains sont déjà définitifs dans le chat. Mais les gens comme ça qui préfèrent être définitifs. Hein, sont en demandant des mots qui vont arriver dans quelques lignes, dans quelques pages. Mais c'est pas, on est dans une culture de l'instant maintenant. Il faut dire les choses tout de suite. Il ne faut pas prendre le temps. Voilà, il faut clamer au monde sa pensée. Hein, surtout pour que tout le monde sache bien ce qu'on pense. Même si la même chose va être écrite deux pages plus tard. Voilà, c'est fini les préliminaires, comme dit Nucci. C'est comme ça maintenant. On vous voit d'ailleurs. Hein. On vous voit. Lisons donc. Ici, on préfère prendre le temps plutôt. Donc, Brigitte Bardot, décédée ce dimanche chez elle à l'âge de 91 ans, a eu deux vies. La première, malgré elle, consacrée au cinéma, et une à partir de 40 ans, en retrait pour devenir pleinement elle-même au service de la cause animale. Parce que déjà, pour les plus jeunes, rappelons que. Mais oui, ah, elle a quand même été condamnée 6 fois pour racisme. Mais ça arrive, c'est dans tous les articles. Vous allez la voir, l'article sur les propos racistes. Vous allez la voir, mais arrêtez de... C'est fou, ça. Brigitte Bardot a été condamnée plusieurs fois pour ses propos incitant à la haine raciste. Mais oui, c'est dans les articles, vous m'épuisez. Mais elle n'est pas que ça, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Oh! C'est dans tous les articles, mais vous pouvez pas attendre 10 secondes. On n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur X. Arrêtez! Ah! Oh, on peut lire un peu? C'est possible? Sinon, on arrête la revue de presse, en fait. On va sur X, hein, on écrit des trucs définitifs de 4 mots tous les jours. Voilà, on écrit ça le matin, on va vivre sa journée. Et puis on n'échange plus, quoi. On parle plus, on n'essaie plus de comprendre. Pourquoi tu t'énerves? Parce que c'est épuisant, Julien. C'est épuisant, ça, en fait. Moi, ce que je propose le matin, c'est que on prenne le temps de lire plein de choses, de comprendre, voilà, pour justement sortir de cette culture de « je résume ma pensée en 4 mots sur X », en fait, qui est en train de contaminer toute la société. Vous vous rendez pas compte à quel point on est en train d'abîmer, de s'abîmer intellectuellement, en fait. C'est épuisant, en fait. C'est épuisant. Ne faites pas ça. Vous faites du mal intellectuellement et vous faites du mal aux autres aussi. Parce que c'est la fin du débat, en fait. Ok ? Allez, on continue. C'est fou, ça. Tout ce que vous dites, c'est dans les journaux. Mais attendez de le lire. Ok ? Donc, elle va pas partir, Brigitte Bardot. Elle est morte. Hein. Elle a le temps maintenant de vous lire. Prenons ce temps. Allez, elle va pas partir. Hein. Allez, on y va. Lidl qui ne voulait pas être star. Brigitte Bardot, décédée ce dimanche chez elle à l'âge de 91 ans, a eu deux vies. La première, malgré elle, consacrée au cinéma. Donc, et chaque mot est important. La première, malgré elle, consacrée au cinéma. Voilà. Et une à partir de 40 ans, en retrait. Donc c'est quand même quelqu'un qui a décidé à un moment de se retirer de la vie artistique, cinématographique, culturelle, pour passer à autre chose, l'autre chose étant notamment la défense des animaux. En soi, c'est déjà assez intéressant. Même si son combat pour les animaux, il a pris des formes parfois un peu étranges, quoi. Voilà. Déjà, ça, c'est assez intéressant. Lisons l'article. Bon, là, bon, le Parisien a fait 17 pages là-dessus, donc ça peut être très long. Mais j'aime bien qu'on prenne le temps, moi. La vie s'éteint et la lumière s'allume, écrit Yves Jéglé. Plus de parasites, plus de déclarations intempestives. Vous voyez, dès les premières lignes de l'article, c'est un dossier de 17 pages dans le Parisien, dès les premières lignes de l'article, le journaliste parle déjà des déclarations intempestives qui vont être développées après, dans plein d'articles, voilà. Mais il faut juste prendre le temps. Voilà. Le Parisien prend le temps ce matin, 17 pages. Mais le problème, pardon, j'insiste là-dessus, on est une société où les gens veulent plus lire 17 pages. On est dans une société où les gens veulent tout résumer en 4 mots. Et c'est pour ça qu'il y a autant de violence aujourd'hui, verbale, et un jour, moi j'ai très peur que cette violence un jour, elle passe le verbal pour devenir autre chose, c'est que les gens veulent absolument que tout se résume en une phrase. Et ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible. Et encore une phrase, certains ne sont même pas capables de l'écrire correctement. Donc, 17 pages. La vie s'éteint et la lumière s'allume. Plus de parasites, de déclarations intempestives, une blonde à jamais incandescente, faisant valser les préjugés et les hommes, un sourire mutin et moqueur aux lèvres. Une poignée de films inoubliables, des robes années 60 aux coupes et courbes aussi élégantes qu'affolantes, un silence et une star, peut-être la dernière star. Une expression devenue cliché, mais bébé disparu ce dimanche à son domicile, donc je crois que c'était son souhait, elle voulait mourir chez elle, a été à la fois la première et la dernière en France condensée de Hollywood dans un bagout de française éternelle, bombe atomique, bien de chez nous dans ce patriotisme gaulliste qui s'émancipait de l'Amérique, baguette et paillettes. Voilà. Il y avait Marilyn Monroe aux États-Unis, il y avait Brigitte Bardot en France. Une amoureuse des animaux, oui. Elle-même une espèce en voie de disparition, fauve sublime blessée depuis le début, le plus beau visage du monde, selon la planète entière ou presque durant les années 60. Voilà. Mais pas une poupée, elle ouvrait sa gueule, elle faisait la gueule. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, Brigitte Bardot n'a longtemps pas été heureuse, le suicide la hante dès l'adolescence, mais la danse l'habite, la sublime, la protège, la jeune fille d'abord brune à lunettes a sculpté son corps dans la dureté des entrechats classiques, timide, maladive, l'homme qui a grandi dans une famille ultra-bourgeoise, catholique et rigide du 16e arrondissement de Paris, se libère sur les pointes par la danse. Son père dirige l'entreprise familiale. Sa mère, dure, rêve d'en faire la vedette qu'elle-même fantasmait d'être. Arrêtez de projeter vos fantasmes de gloire, de réussite sur vos enfants, déjà. Elle la voyait plutôt ballerine après 10 ans de pratique ou mannequin, bébé, né le 28 septembre 1934 et déjà une petite vedette de l'après-guerre. Elle multiplie dès l'âge de 15 ou 16 ans les couvertures d'elle, dirigées par Hélène Lazarev, qui l'a repérée, la suivra toute sa carrière. Et le cinéma la découvre sur papier glacé. Sait-elle jouer ? Sait-elle jouer ? Était-ce une bonne actrice ? Première question intéressante. Elle s'en moque. Rien ne sonne jamais faux chez Brigitte Bardot. Elle allume le feu, hypnotise la caméra. Roger Vadim, à peine plus âgé qu'elle, qui l'a découverte en tant qu'assistant lors de ses premiers essais, esquisse comme un dessin le premier mythe Bardot. Le jeune couple met d'abord en fureur les parents de Brigitte et se marie dès qu'elle a fêté ses 18 ans. Mais la fracture dans le temps, c'est 1956. Ça remonte à super loin. Hein. Ça remonte à super loin. Moi, je n'ai pas tellement connu cette époque, hein, malgré ce que disent les mauvaises langues. Ouais. Au printemps de cette année-là, elle joue les starlettes au Festival de Cannes. François Mitterrand, garde des Sceaux, qui ouvre le festival, apprécie discrètement ses courbes sur une photo célèbre. À l'automne, elle joue le rôle de sa vie dans « Et Dieu créa la femme ». Dès la scène d'ouverture, on la devine nue sur une terrasse derrière un drap, mais c'est sa liberté plus encore que sa beauté qui crève l'écran. Alors, les journaux parlent beaucoup de ses amours. Hein, elle a séduit beaucoup, elle a conquis le cœur de beaucoup d'hommes. Hein. Là, ils évoquent par exemple Jean-Louis Trintignant, l'autre révélation du film. L'héroïne le choisit, mais va le broyer. Bébé papillonne, quitte Roger Vadim pour son partenaire, dont Jean-Louis Trintignant. Puis celui-ci pour le chanteur Gilbert Bécaud, avant beaucoup d'autres. Voilà. Elle aime franchement et intensément, mais pas longtemps, une grande amoureuse au cœur d'un tichot qui ne rêve aucunement d'enfanter. Alors, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant, mais qui, je crois, d'ailleurs, l'a poursuivi en justice plus tard. Un fils, ouais. Et un enfant dont elle a déclaré qu'elle aurait préféré ne pas l'avoir. Elle a expliqué que elle n'avait trouvé aucun médecin qui avait accepté de la faire avorter parce que trop connue. Voilà, donc ça, là, c'est une des choses qu'elle avait déclaré à propos de son fils et qui ne rêve aucunement d'enfanter. Dans cette France des années 50-60, c'est plus qu'assez pour être attaqué et aujourd'hui pour apparaître comme une... Désolé d'être aussi malade. Comme une éclaireuse à l'avant-garde du féminisme. Un rôle qu'elle a toujours refusé d'endosser. Ah oui, un fils dont elle a déclaré qu'il a été le poison de sa vie. Oui. Alors c'est le problème avec Bardot, c'est que... Elle a déclaré qu'elle aurait préféré accoucher d'un chiot plutôt que d'un enfant, me dit Maximilien. Le problème avec Bardot, c'est ça, c'est que... pour dire les choses, elle ouvrait sa gueule, elle ouvrait grand, et elle disait parfois des monstruosités, quoi. Voilà. Mais dans cette histoire, il y a aussi l'histoire d'une femme qui, en fait, ne voulait pas être mère. Et ça, alors si on veut mettre de côté un instant ses propos surréalistes qu'elle a tenus à propos de son fils... C'est une forme de féminisme, c'est-à-dire de dire qu'une femme peut se réaliser autrement qu'en étant mère. On est dans les années 50-60. Hein. Donc à l'époque, la société ne veut pas entendre ce discours. Voilà. Lucide, elle avouait sa dépendance aux hommes, et pas toujours pour le même. Voilà. Il y aura beaucoup d'autres films, mais Bardot ne s'y réduit pas. Hors cadre, plein champ, elle ne construit jamais une carrière, désir de sa mère d'abord, puis d'une planète people devenue folle. Donc l'article nous dit qu'elle n'a pas vraiment voulu devenir une star de cinéma. De 56 à 73, de « Et Dieu créa la femme » à la fin de sa carrière, c'est assez court, hein, carrière cinématographique de Bardot, 1956-1973. Bébé ne s'appartient plus. Chaque seconde de son temps est l'affaire de tous. Il y avait une pression médiatique sur Bardot qui était surréaliste, quoi. Même sa grossesse et la naissance de son fils, né de ses amours tourmentés avec le comédien Jacques Charry en 1960 alors qu'elle a 25 ans, se déroule pratiquement sous les objectifs. Elle est devenue un animal traqué. Le nombre de journalistes devant la maison où elle accouchait, c'était fou, quoi. Ses films en deviennent presque périphériques. Voilà. Les cinéphiles se disputent pour savoir quel est son meilleur film. La vérité d'Henri-Georges Clouzot avec Samy Fray, qui deviendra l'un de ses grands amours. Voilà. Ou Le Mépris, en 63, chef-d'œuvre de Godard, où elle forme avec Piccoli, Michel Piccoli, un couple en fin de parcours en phase d'autodestruction. Mais de reportages sur le tournage en Italie montrent les risques inconsidérés que prennent les paparazzi pour saisir le moindre cliché d'une vie devenue publique jusqu'à la nausée. Manifestement, c'est de ça dont elle a voulu... C'est ça qu'elle a voulu quitter quand elle a arrêté sa carrière cinématographique, quoi. 1960, année terrible. Elle accouche donc de son fils Nicolas en janvier, tourne La Vérité et réchappe de peu à son tentative de suicide la plus dangereuse en octobre. Bébé, Brigitte Bardot, incarne aussi, quand c'était encore un sujet tabou, les émotions qui dérangent, un incommensurable baby blues, une maternité imposée par l'ordre social et patriarcal plutôt que désirée, hein, une fragilité, être la plus belle, la plus jalousée, la plus célèbre, mais parfois la plus malheureuse. Il lui faudra encore 10 ans pour vouloir moins, puis plus du tout de films, moins de foule, moins de lumière, sinon celle de sa maison, la Madrague, en bord de Méditerranée, refuse assiégée par les touristes, où elle fait ériger un mur pour s'extraire des regards depuis l'eau où s'accumulent les bateaux voyeurs. Brigitte Bardot fait la révérence à Elisabeth II, discute du beau avec Picasso, mais sa vie est ailleurs, elle se cherche d'abord un peu de jet-setteuse, lors de son mariage avec l'industriel allemand Gunther Sachs. Voilà. En 1967, elle tombe amoureuse de Serge Gainsbourg, idylle passionnelle qui donne naissance à son dernier grand fait d'armes artistiques avec un bouquet de chansons pour l'éternité, Initial BB, mais surtout la bien nommée Je t'aime moi non plus, qu'elle enregistre, mais qui ne pourra jamais être commercialisée avec sa voix. Gunther Sachs l'interdit, Jan Birkin en fera un tube. Alors ça, je ne savais pas ça. Okay. Alors je connaissais le Je t'aime moi non plus. Gainsbourg, Birkin, je ne savais pas qu'il y avait une version avec Brigitte Bardot. La trentenaire chante quand même la sauvagerie de Bonnie and Clyde avec le beau Serge et devient de plus en plus elle-même insoumise, révoltée, une femme qui dit non, définitivement en 1973, un an avant ses 40 ans, quand elle arrête le cinéma. La star habituée à rencontrer De Gaulle ou Giscard d'Estaing, qu'elle soutient en 1974, avait déjà commencé à soutenir la cause animale, mais c'est le 1er mars 1977 qu'elle écrit. Donc là, on rentre dans la deuxième partie de la vie de Brigitte Bardot. Qu'elle écrit le premier jour de sa deuxième vie en s'opposant à la chasse des bébés phoques au Canada. La photo de bébé et du petit phoque fait le tour du monde, mais la passionnariat des bêtes n'est pas prise au sérieux. On s'est beaucoup moqué d'elle, hein, à l'époque. En 2018, dans Les larmes de combat, elle confesse « Je ne fais pas partie de l'espèce humaine ». Bon, ça, c'est le problème avec Bardot, c'est que, y compris dans sa défense des animaux, elle avait des propos d'une violence vis-à-vis du genre humain, d'une misanthropie surréaliste. Et ce qui l'a amené d'ailleurs à tenir des propos racistes. Et donc en 2018, dans un livre, elle confie « Je ne fais pas partie de l'espèce humaine, je ne veux pas en faire partie ». Je me sens différente, presque anormale. Aussi longtemps que l'animal sera considéré comme une espèce inférieure, je ne ferai pas partie de cette race humaine insolente et sanguinaire. Sa fondation, Fondation Bardot, créée en 86, reconnue d'utilité publique en 92 et qui compte près de 200 salariés, bon, j'ai vu même 300 dans un article là, représente son principal héritage. Longtemps moqué, Bébé a eu raison sur toute la ligne ou presque dans son combat désespéré pour les animaux en détresse. Avec les humains, ça reste le plus difficile. Ces propos racistes agacent. Vous voyez, il suffisait d'attendre. Hein. Les gens qui s'en avaient tout seuls, il y a 10 minutes, en disant « Oui, mais il faut dire qu'il y a des... Oui, mais il faut attendre, en fait. Il faut juste lire les articles, en fait. » Tous les journaux parlent de ces propos racistes ce matin. L'impatience intellectuelle, aujourd'hui, est en train de tuer le débat de notre société, quoi. C'est juste... C'est quelques lignes plus tard. Il faut juste attendre, en fait. Ses propos racistes agacent, elle est condamnée en 2021, elle a été condamnée plein de fois. pour injure publique envers la population réunionnaise. On va revenir sur tous ces propos, j'ai un article entièrement consacré à ça. Voilà. L'ancienne Marianne de Nomery s'est durcie, elle s'en fiche comme du reste. Le peuple des bêtes a perdu sa plus grande ambassadrice, celui des cinéphiles, une étoile à jamais brillante. Éteignez tout, allumez le lecteur DVD, voilà la musique du mépris. Je crois que hier il y a eu des films avec Brigitte Bardot qui ont été diffusés hier soir, c'est ça? Peut-être Le Mépris de Godard. Des relations impossibles entre les hommes et les femmes et son incandescente beauté dont elle fut la première victime. Le mépris. Le mépris. Mais j'aurais bien aimé regarder en vrai. Même si je ne regarde plus la télé. Il manque une page là. 3. Ah oui, parce que je vous lis pas. Ah oui, je vous lis pas tout. Ah oui, parce qu'il y a 17 pages. Donc voilà. Là, j'ai un encadré sur son combat pour les animaux. Puis après, on aura un encadré aussi sur tous ses propos racistes. Militantisme, les animaux, le combat d'une vie. Et moi, je pense que quand on se penche sur la vie, la carrière d'une personne aussi multifacette que Brigitte Bardot, bah, il faut évoquer toutes ces facettes. Et que c'est une erreur. Salut, bon anniversaire 5T4, quelque chose comme ton pseudo. Et c'est une erreur, en fait, de focus uniquement sur une de ces facettes. En fait, vous passez à côté de la vérité. Voilà. Dire que Bardot est raciste, par exemple, bon, bah, c'est juste enfoncer une porte ouverte, quoi. Mais ça ne suffit pas à la caractériser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne suffit pas. Et par exemple, son combat pour les animaux, qui est en partie lié d'ailleurs à son racisme, parce que parfois elle liait les deux, c'était un peu bizarre, il faut en parler aussi. Notamment une époque où c'était pas du tout populaire. Et elle s'est battue contre l'opinion publique. On s'est beaucoup, beaucoup moqué d'elle. Hein. Les animaux, le combat d'une vie. Bah, lisons cet encadré. Début 62, la star de 27 ans demande à passer à 5 colonnes à la une. Tiens, vous allez voir, c'est une des émissions où on s'est moqué d'elle, justement. Si, pour moi, ça suffit amplement à la caractériser par ça, c'est une raciste et elle mérite pas qu'on dise autre chose d'elle. Ça, Kimpo Sama ne l'écrit pas ici. Écris-le sur Twitter, t'auras beaucoup de succès, tu vas avoir plein de likes, plein de retweets, mais c'est pas ce qu'on fait ici. Si tu veux de l'info résumée en 4 mots comme ça, t'as le réseau du Chétan qui est pour. Mais c'est pas sur Twitch. Voilà. Si tu veux exprimer ta pensée en 4 mots, c'est sur Twitter. Ici, ça n'a aucun intérêt. Donc, nous continuons. Les animaux, le combat d'une vie. Début 62, la star de 27 ans demande à passer à 5 colonnes à la une. C'est une grande émission d'actu. La grande émission d'actualité du petit écran. Pierre Desgroupes, le grand Manitou du programme, hésite à l'inviter. Bébé ne veut pas parler d'elle, mais des conditions épouvantables d'abattage des veaux à la Villette. Il trouve que ce symbole sexuel ne colle pas à des images aussi dures. Brigitte Bardot sait déjà que les bêtes sont sa raison de vivre. L'actrice pousse ce 5 janvier, on est en quelle année? On est en 62, son premier coup de colère. Face caméra, en gros plan. La jeune femme apparaît modérée, timide, s'excuse d'être une très mauvaise avocate, comprend que les gens mangent de la viande, mais demande, à la télévision française donc, qu'un pistolet d'étourdissement abrège les souffrances des bêtes. À l'époque, il n'y en avait pas. Pas en France. Comme dans certains pays européens. Elle tient tête à 2 employés des abattoirs, au sourire condescendant, se tord les doigts, expose sa fragilité, sa douleur plus que sa colère et crève l'écran. 2 ans plus tard, le ministre de l'Agriculture lui donne raison en apposant ses pistolets qui étourdissent avant la saignée, première et discrète victoire. Donc déjà, on a une Brigitte Bardot qui, en 62, demande à passer à la télé pour que, enfin en France, on utilise ses pistolets d'étourdissement avant d'abattre les animaux. Bardot au service des animaux, ça n'est pas une seconde vie, c'est la sienne. Depuis toujours, elle n'a jamais aimé sa carrière, mais ce rôle de protectrice des faibles n'était pas de composition. Très tôt, elle est suivie, sinon par les politiques et le grand public, du moins par les personnalités qui comptent. Marguerite Yourcenar, la romancière par exemple, en 68, lui écrit. Voilà. Donc Yourcenar écrit à Bardot pour la sensibiliser à l'horrible massacre annuel des phoques. On s'est beaucoup moqué de Brigitte Bardot qui protégeait les phoques. Yourcenar lui écrit « L'horrible massacre annuel des phoques dans les eaux canadiennes et surtout la mise à mort atrocement cruelle des jeunes phoques. Voilà. » Ses premiers stages à la SPA, sa volonté d'en découdre avec une société qu'elle trouvait inhumaine envers les non-humains, la révoltée a tout appris en 50 ans d'engagement. En 1977, elle est moquée lors de son coup de force au Canada sur la banquise pour témoigner des massacres de phoques prisés pour leur fourrure devenant manteaux portés par les connes. Comme elle dit. Voilà, ça c'était Brigitte Bardot. Une mauvaise langue parle de croisade croisière. De retour en France, elle écrit au président de la République, c'était Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, « La France décide d'interdire l'importation de fourrures de jeunes phoques. L'Union européenne suit en 1983. » Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le combat de Brigitte Bardot a eu un impact incroyable, radical, sur... sur la façon dont ont été abattus les jeunes phoques et sur le commerce de peau. L'année d'après, donc 3 ans plus tard, la spécialiste des coups et déclarations de la porte-pièce se structure en créant sa fondation. Voilà. L'année d'après, elle abandonne sans retour sa première peau, celle de star, en vendant pratiquement tout ce qu'elle possède, jusqu'à la robe de son mariage avec Roger Vadim pour financer ses projets. La mise aux enchères rapporte l'équivalent de plus de 500 000 euros. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux, déclame-t-elle. La Fondation Brigitte Bardot est aujourd'hui présente dans 70 pays. Voilà. Ça, c'est son combat pour les animaux. Et ça n'est qu'une partie de sa vie, bien sûr. Mais ce serait intellectuellement dommage de ne pas en parler. Ça, c'est Le Parisien. Maintenant, c'est Libé. Libé qui, d'entrée, nous dit bah, cette femme, elle a plusieurs facettes. 2, 3, peut-être plus encore. Voilà. Et en sa une, fait ce titre qui est magnifique, Brigitte Bardot, face A, face B. Édito. Édito de Didier Perron, qui voit en la figure de Brigitte Bardot une icône à 3 faces. Soyons francs, écrit Didier Perron. On aime aussi les stars pour leur capacité à nous décevoir, à tomber de leur piédestal ou tromper une forme d'idéal qu'on a projeté sur elles. Bardot, à ce titre, est un vrai cas d'école. Tant son aura singulière a persisté presque à proportion de sa véhémence, a ruiné l'impressionnant capital mythologique qu'elle avait emmagasiné au cours d'une carrière déployée sur à peine 2 décennies, au début des années 50 à 73. Bardot, l'artiste, actrice et chanteuse, s'éclipse, bientôt remplacée par la militante de la cause animale qui se démultiplie pour dénoncer aussi bien l'abandon des animaux de compagnie que le scandale du trafic des défenses d'éléphants, luttant contre le massacre des bébés phoques, vilipendant la chasse et l'abattage des animaux, tout particulièrement selon le rite halal sans étourdissement préalable. Bon, ça, on en a déjà parlé un petit peu. Bardot, en cela, est en avance sur son temps, à une époque où personne en France ne parle encore de la philosophie antispéciste tout juste émergente. Bébé fait entrer les bêtes dans le champ d'un vivant respecté, ce qui était un petit peu révolutionnaire à l'époque. Empathie animale, souvent vue comme le caprice d'une retraitée précoce, recluse dans sa madrague de Saint-Tropez, telle une néo-Marie-Antoinette organisant sa cour alternative de créatures de tout poil et plumes qui n'ont jamais l'occasion de la contrarier ni de lui donner tort. Mais cette passion pour la protection animale, louable en soi, a rapidement eu un revers misanthrope et raciste, de plus en plus bruyant pour celle qui aimait se dépeindre au mieux comme marginale et réactionnaire. À longueur d'interview, dans son autobiographie initiale Bébé ou dans le livre pamphlet complètement disjoncté Un cri dans le silence qu'elle a publié en 2003, qui est, le bouquin est une atrocité, Bardot écume de haine, souvent puérile et vulgaire, tout en donnant tant qu'elle peut des leçons de maintien et de dignité perdue. La France des années 50 constituant à ses yeux le décor propre et pittoresque d'un âge d'or aboli. Toujours extrêmement dangereux, les gens qui vous disent « c'était mieux avant ». La saleté, alors là on rentre dans le dark side de Brigitte Bardot. La saleté humaine se répand comme une marée noire. Les hommes sont presque tous pédés. Les femmes les ont trop emmerdés. Les handicapés, pauvres, difformes, les homosexuels, lopettes de bas étage, les Français, race décadente, déformée par l'alcoolisme. C'est Brigitte Bardot aussi. Voilà, il ne fallait pas se presser, ça arrive, les gars. Mais j'ai l'impression que certains, depuis le début de ce stream, n'attendaient que ça. Elle est aussi ça. Oui, elle avait, je crois que c'est même, elle a pas dit, elle a écrit même. Elle saurait, l'école, pardon, l'école centre de dépravation. Elle saurait pile des chômeurs qu'on aide trop, des musulmans colonisant le pays. C'est son livre, c'est son livre de 2003, ça. De l'éloge du métissage brassant nos antagonismes les plus viscéraux. C'est marrant, ça rappelle le programme politique, de... oh, peu importe. Conservé pour la postérité dans un bloc de glamour insolent qui semble désormais, tel une banquise ayant fondu au soleil, ne plus tenir esthétiquement que dans son seul rôle sublime de Camille dans Le Mépris de Godard. Bardot, saison 2, n'a jamais réussi à effacer le choc de son apparition. Donc elle n'était pas que raciste, elle avait juste une haine contre la race humaine. Oui, notamment, oui. Elle était raciste, bien sûr, ouais. Elle a d'évidence plus subi que désiré devenir une icône pop, un phénomène de fascination de masse et avoir vécu la notoriété comme une dépersonnalisation si terrifiante qu'elle tenta de mettre fin à ses jours. Puisque aujourd'hui Bardot meurt, il faut faire vivre ensemble ou séparément selon ses convictions l'idole lumineuse révolutionnaire, l'ami des bêtes révoltées et la révoltante furie d'extrême droite dans un même hommage contrasté ou contrariant. C'est toute la difficulté de parler de Bardot. Parce que selon le moment où vous allez entendre cette revue de presse ou écouter cette revue de presse, vous allez dire, ah, mais attendez, mais comment pouvez-vous parler de son combat pour les animaux alors que c'était d'abord une immense raciste? Et puis après, je lirai, parce que je connais le chat par cœur, mais comment pouvez-vous résumer Brigitte Bardot à son racisme alors qu'elle a aussi beaucoup fait pour les... Ouais. Elle est tout ça, en fait. Et alors, c'est très ennuyant intellectuellement, parce que c'est plus compliqué à appréhender, mais une personne, il faut quand on parle d'une personne et quand on dresse le bilan de sa vie, il faut s'intéresser à toutes ses facettes. Comme le dit Cyril, comment pouvez-vous résumer Bardot à son racisme alors qu'elle était aussi homophobe? Comme dit Empereur Poilpatrine, c'est comme un oignon, il y a des couches. L'édito est pas mal, l'édito est pas mal. Alors, Libération consacre une dizaine de pages à Brigitte Bardot. Alors, moins que les 17 pages du Parisien, mais beaucoup, quoi. Et on a notamment on a un encadré sur cette longue dérive vers la haine raciale, hein, que je vous garde en dessert. Hein. Je parcours un peu l'article pour voir s'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues dans l'article du Parisien. Comme ça, ceux qui nous rejoignent maintenant, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu lire l'article du Parisien, bah vous allez avoir le retour sur la carrière de Brigitte Bardot via Libé. Le plus grand sexe symbole du cinéma français vient de disparaître. À la fois actrice et chanteuse, superstar mondiale, phénomène de société, activiste de la cause animale, Brigitte Bardot a rendu son dernier souffle dimanche à 91 ans dans sa maison de la Madrague à Saint-Tropez. Avec elle disparaît l'un des derniers témoins d'un âge d'or, celui des années 60, dans lesquels Brigitte Bardot se sera jetée à corps perdu. Évidemment, cette période-là, nous, on ne la connaît pas, quoi. C'était sans doute la dernière de cette poignée de figures nouvelles et libres dans lesquelles la France a aimé se reconnaître au tournant des années 60. Elle s'appelait Brigitte Bardot, François Sagan, ou Yves Saint-Laurent, était née au milieu des années 30, n'était que des enfants durant l'occupation. Elle n'avait pas de compte à rendre, pas de faute à expier, elle représentait une France neuve, le mouvement, la vitesse, elles allaient de l'avant. Si on ne devait retenir qu'une seule image de Brigitte Bardot, ce qui est précisément impossible, justement c'est ça le problème, c'est qui voudrait garder de Brigitte Bardot qu'une seule image, qui voudrait résumer Brigitte Bardot par une seule image, bah, ne pourrait que se tromper, c'est tout le problème d'ailleurs. C'est tout le problème d'ailleurs. Si on ne devait retenir qu'une seule image de Brigitte Bardot, ce serait peut-être celle de cet envol dans la lumière andalouse en 58, pendant le tournage de La femme et le pantin de Julien Duvivier. Vêtue d'une robe noire, elle dévale un escalier libre et légère, elle ne court pas, elle danse. Figure ailée de la grâce et de l'insouciance, elle s'élance vers l'avenir, un éclat de lumière traverse sa chevelure. Bardot était la Française la plus photogénique du XXe siècle et aura laissé des centaines de photos admirables. Mais sur cet instantané, la gloire, même si elle est déjà là, ne pèse pas encore une fraction de seconde volée avant la tempête. Alors, Libération revient sur... Salut Benki! Bravo pour ce bel événement qui est en train d'arriver. Force à tous les deux. Ça va être trop sympa, vous allez voir. Brigitte Bardot naît le 28 septembre 1934 dans le 15e arrondissement de Paris au sein d'une famille de grands bourgeois industriels. Ses parents désirent un garçon, elle naît décevante. On la prénomme Brigitte en référence à la déesse celte, on s'en fout ça, blablabla, blablabla. Voilà. Une mère glaçante et dure qu'elle vous voit. Voilà. Elle grandit sous le ciel bien ventilé de Passy, la fabrique de filles de bonne famille de l'Ouest parisien, dans un bel appartement surplombant la place de la Muette. On est dans un contexte socio-économique plutôt confortable. Toute son enfance s'inscrit dans ce périmètre. Voilà. Brigitte Bardot était une petite fille malheureuse. Elle est née amblyope, quasi aveugle d'un œil. Le gauche, une tare de naissance, écrit-elle dans ses mémoires, une maladie étonnante, l'amblyopie, c'est le cerveau qui est défectueux, c'est pas l'œil, qui lui perd la notion de profondeur, peine à appréhender l'espace et l'imagine ce qu'il ne perçoit pas. Brigitte doit porter des lunettes à verre épais, en plus d'un appareil dentaire, la jugeant laide, sa mère lui préfère sa petite sœur, plus sage et plus jolie. Brigitte se réfugie dans la danse. Dès l'âge de 7 ans, elle fréquente 3 fois par semaine un cours du quartier avant de rejoindre le conservatoire où elle collectionne les prix et remporte le premier accessit en 1948. Oui, j'ai vu, j'en ai parlé Wispy déjà. Je l'ai félicité. À l'adolescence, elle entame une carrière de mannequin pour sa mère d'abord, qui présente ses créations de chapeaux dans l'appartement familial. En mars 49, sa toute première photo est publiée dans le mensuel Le Jardin des Modes. Elle a 14 ans. 2 mois plus tard, le tourbillon est lancé. Elle fait la couverture de Elle, le nouveau magazine féminin de l'après-guerre. Et l'année suivante, elle rencontre Roger Vadim, photographe à Paris Match et assistant du cinéma Marc Allégret. De 6 ans, son aîné, un brin cynique, il est foudroyé par la grâce et la liberté de cette magnifique adolescente dont l'éducation bourgeoise n'a pas altéré sa spontanéité. Une idylle secrète se noue entre le séducteur et cette quasi-fillette.
Et à quel âge ? ans.
Roger Vadim traîne alors avec les frères Marquand, Serge et Christian, dont le dernier est très proche de Marlon Brando. À 16 ans, Brigitte fait sa première couverture de match avant de débuter au cinéma face à Bourvil dans Le Trou Normand, où elle joue l'idiote immorale, puis d'enchaîner les films où elle n'est qu'un faire-valoir. À 18 ans, encore mineure, parce qu'à l'époque, je crois que la majorité était à 21 ans, si je ne dis pas de bêtises, à 18 ans encore mineure, elle épouse Vadim à l'église Notre-Dame de Grâce de Passy. Voilà. Bardot a 21 ans, c'est ça, hein, 21 ans à l'époque. Bardot a 21 ans, elle a joué dans une quinzaine de films déjà, et n'est encore qu'une charmante ingénue lorsqu'en 56, et donc c'est le film qui l'a fait exploser, Vadim réalise « Et Dieu créa la femme ». Le personnage principal du film, tourné dans le petit port délabré de Saint-Tropez détruit par la guerre, est inspiré de la vraie Brigitte, autrice d'une partie de ses dialogues. Vadim l'invente en sexe symbole. Pour capter sa grâce naturelle, il la décoiffe entre chaque plan, interdit qu'on la remaquille, il filme ses gestes d'adolescente, son corps, sa nonchalance, son goût de la provocation, sa liberté sexuelle. Il veut saisir sa grâce fière et majestueuse, la magie particulière de sa présence, l'émotion qu'elle inspire sans le vouloir, sa manière d'occuper l'espace, sa gestuelle transcende son absence de technique et magnifie le moindre plan. Je crois que le film a un succès moyen en France d'ailleurs, mais c'est en Grande-Bretagne et aux États-Unis que le film... un succès de fou et fait beaucoup parler, quoi. Préservant sa spontanéité, il lui fait rarement tourner deux fois la même scène. Celle culte où Bardot danse le mambo sur une table et est réalisée presque en un seul plan dans les studios de la Victorine à Nice. Une des rares scènes tournées en studio, pieds nus, cuisses ouvertes, Bardot mime l'amour au rythme des percussions, vêtu d'une jupe fendue et d'un justaucorps noir de danseuse. Et Dieu créa la femme tient du documentaire, de l'autoportrait stylisé. C'est pourquoi aujourd'hui encore ce film de série B reste fascinant, illuminé par la présence attachante de Bardot et ses jambes somptueuses. À sa sortie en France à l'automne 56, « Et Dieu créa la femme » est un échec. Dans les salles, le public ricane et critique, et la critique le réduit à du tortillage de croupions. Seule la nouvelle vague de Truffaut à Godard s'enthousiasme pour un film tourné en décor naturel avec des acteurs pour la plupart inconnus. Mais le public américain ne s'y trompe pas. C'est lui, un an plus tard, qui va faire la renommée du film et la gloire de l'actrice. De tous les coins des États-Unis, on se précipite pour voir cette œuvre sulfureuse. Jamais encore une actrice n'a libéré ses phéromones devant la caméra avec un tel abandon. Clé de voûte d'une nouvelle partition hédoniste, Brigitte Bardot transpire à l'écran et affiche sa désinvolture sexuelle. Sous ses pieds nus, la voûte plantaire est noire. On n'a jamais filmé ça à Hollywood. Et sa vie privée est tout aussi excitante. À la ville, elle a déjà quitté Vadim pour vivre avec Trintignant, son partenaire dans le film. En 1957, l'hebdomadaire américain Life lui consacre un dossier complet. Brigitte Bardot représente moins une fille qu'une excitante attitude métaphysique. Depuis la Statue de la Liberté qui domine New York, aucune Française n'a projeté un tel faisceau de lumière sur les États-Unis. En quelques semaines, Brigitte Bardot devient une superstar mondiale. À la mort de Marilyn Monroe en 1962, le New York Times indiquera qu'un seul sex symbole rivalisait avec elle, Brigitte Bardot. C'était aussi sa Bardot. Même si elle va tourner le dos à tout ça après. Marilyn morte, elle devient la femme la plus regardée au monde. Sans que nul ne se rende compte qu'elle n'y voit rien, cette célébrité monstre, elle va la vivre jusqu'à la surexposition. Ma vie privée, c'est comme un livre ouvert par les autres, dira-t-elle. Elle vivra sa grossesse en 1959. En otage de cette notoriété, les journalistes se relaient durant des semaines devant son domicile où elle s'est réfugiée. Durant la soirée du réveillon du Nouvel An, elle comptera pas moins de 7 voitures de paparazzi stationnant devant ses voitures. Elle accouche le 11 janvier d'un garçon, Nicolas. Lorsqu'elle avait épousé son père, l'acteur Jacques Charrier, quelques mois plus tôt, 200 journalistes s'étaient déjà imposés à la cérémonie, faisant voler en éclats les vitres de la mairie. Exceptionnellement photogénique, celle qu'on surnomme bébé devient l'égérie des années 60. C'est ce monde dont on essaie de se souvenir ce matin, puisque c'est très loin de nous. Elle devient l'égérie des années 60. Après la guerre, la société française vit une mutation anthropologique dont le corps radioactif de Brigitte Bardot est tel. C'est que si l'impact de la jeune femme est tel, c'est que le changement qu'elle accompagne et symbolise est considérable, les années 60. Secouée dans ses racines, la France catholique et rurale devient une nation urbaine, industrielle et laïque à vitesse grand V. L'habitat, les vêtements, les transports, les façons de vivre, de se nourrir, de se reposer, la famille, les principes, les croyances, le langage, tout se transforme. La femme est le vecteur de la mutation et Bardot en est son modèle. Bon, après, il y a l'histoire de la Madrague, la maison qu'elle a achetée à Saint-Tropez. Je vous raconte pas tout. Si Brigitte Bardot n'était pas féministe, au sens où on l'entend aujourd'hui, tu m'étonnes, évidemment, la définition a évolué, elle le fut indéniablement. Voilà. Elle fut toujours indépendante financièrement, sexuellement, elle était libre comme un garçon, ce qui choquait beaucoup à l'époque. Quand un homme l'attire, Bardot va droit vers lui, rien ne l'arrête, peu importe qu'il soit dans un café, chez lui ou chez des amis. Elle part avec lui sur le champ sans un regard pour l'homme qu'elle quitte, écrit Marguerite Duras. Pour conjurer la solitude, Brigitte peut ouvrir une parenthèse. Quand elle dit à un homme qu'elle l'aime, elle est sincère, mais le lendemain, elle peut l'oublier. Enchaînant les conquêtes, Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Jacques Charrier, Sacha Distel, Gilbert Bécaud, Samy Fray, Bob Zaguri, les liaisons d'un soir, un vieux copain, un playboy de passage, un étudiant, un militant de la cause animale, un coureur automobile, Warren Beatty, Serge Gainsbourg, Nino Ferrer, un barman, un tiers de comédien, 20% de chanteurs, les gens avec qui elle travaille. C'est elle qui choisit. C'est elle qui rompt. Un homme, ce n'est pas assez pour une femme, ou bien c'est trop, écrivait Jacques Chardon. De l'amour, Bardot n'aime que les commencements, c'est joliment écrit. Merci Chi78, merci Zoromino. Au début des années 60, Brigitte Bardot entame une carrière de chanteuse, épaulée par un parolier qui s'appelle Jean-Max Rivière. Si le cinéma est pour elle une servitude, chanter se révèle un plaisir. En 67, Gainsbourg écrit pour elle Harley Davidson, Bonnie and Clyde, Je t'aime moi non plus. Ils ont une brève liaison, mais elle est alors mariée avec le milliardaire allemand Günther Sachs. Je ne lis pas tout l'article, hein. Il y a 10 pages, mais vous irez lire. Pour ceux, pour le coup, qui s'intéressent vraiment à l'histoire de Bardot, achetez Le Parisien ce matin, 17 pages. Achetez Libération, 10 ou 11 pages, vous aurez plein d'infos, quoi. C'est vachement bien écrit, Libé, en tout cas. Il y a un épisode de sa vie qui est intéressant, que Le Parisien n'évoquait pas tout à l'heure. C'est le chantage qu'elle a subi de l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. C'est ceux qui ont essayé de tuer De Gaulle aussi. L'attentat du petit Clamart, si je ne dis pas de bêtises. C'est ceux qui, c'est l'OAS qui se battait, je crois, pour le retour de l'Algérie française. Corrigez-moi si c'est une bêtise. Et donc, Bardot a été victime d'un chantage de l'OAS. Depuis quelques mois, elle fait l'objet d'un chantage de l'OAS, le groupe paramilitaire d'extrême droite, qui s'oppose, c'est ça, par des actions terroristes à l'indépendance de l'Algérie. Le 12 novembre 61, elle reçoit une lettre de menace lui ordonnant de verser 50 000 francs sous peine de voir entrer en action les sections spéciales de l'OAS. Bardot s'énerve, répond aussitôt via l'Express. Voilà. Vous trouverez ci-joint la lettre que je viens de recevoir de l'OS. Je vous la donne pour que vous communiquiez de la manière la plus efficace dans le cadre de votre combat contre cette organisation. Elle refuse de céder au chantage, n'ayant pas envie de vivre dans un pays nazi. Le mot n'est pas employé à la légère. D'origine juive polonaise, les parents de Sammy Frey, l'homme qu'elle aime alors, sont morts en déportation, lui-même étant un rescapé de la rafle du Veldiv grâce à sa mère qu'il avait caché sous un meuble avant d'être arrêté. Je ne savais pas que Sammy Frey était un rescapé de la rafle du Veldiv, par contre. Aidé de son avocat Robert Badinter, c'est étonnant, Bardot déposera la première plainte en justice contre l'OAS. La menace physique était pourtant réelle, la position du gouvernement ambiguë. Le public, pas toujours indulgent envers Bardot, la découvre sous un nouveau jour. Oui, quand on a parlé de la Bardot raciste, avec des propos monstrueux qu'elle a pu tenir parfois, et puis là, on a d'autres facettes de la personne. Son engagement s'exprimera de nouveau quand elle cache. Et c'est Libération qui le rapporte. Quand elle cachera l'homme de théâtre Antoine Bourseiller. Sympathisant du FLN, qui se bat pour l'indépendance de l'Algérie. Il avait reçu un appel nocturne lui conseillant de se mettre au vert pour échapper aux recherches du ministre de l'Intérieur Roger Frey et du préfet de police de Paris. Lorsqu'un Bourseiller désemparé téléphone à son ami Sammy Frey, aussitôt Brigitte lui offre l'hospitalité à son domicile. Nul ne soupçonna l'homme traqué de se terrer chez l'actrice la plus photographiée du pays, qu'il regardait éplucher des légumes dans sa cuisine. Marrant. Était-elle une bonne actrice? Si Bardot n'a jamais été prise au sérieux au cinéma, c'est que son magnétisme sexuel effaçait la qualité de son jeu, écrit Libération. Elle habite pourtant l'espace, dès qu'elle apparaît à l'image, l'ennui cesse. Sa merveilleuse maladresse, sa lenteur, sa gaucherie pleine de grâce, naissent-elles de son amblyopie, son problème à l'œil, vous savez, de son apprentissage précoce et sérieux de la danse? Lorsque Bardot traverse l'écran de son pas ailé, on ne voit qu'elle, mouvement souple et ample, port de tête hiératique, légèreté, tout est élégant, émouvant. Bardot a un secret, elle sait bouger, sa démarche subjugue. Pourtant, en 73, elle interrompt sa carrière sans retour. Elle refuse de se regarder vieillir à l'écran, elle n'a pas 40 ans. Ah, maintenant on arrive aux animaux. On refait en fait le dossier du Parisien, mais par les yeux de Libération. La rupture est brutale, mais le nouveau combat dans lequel elle s'investit vient de loin. Très tôt, Brigitte Bardot avait mis sa célébrité au service des animaux. Marraine du Club des Jeunes Amis des Animaux, association d'enfants lancée par le journal Le Tintin, elle se fait leur avocate à la télévision des 62, militant pour que les animaux de boucherie soient anesthésiés avant l'abattage. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Première victoire, en 64, un décret oblige à étourdir l'animal avant sa mise à mort, à l'exception de l'abattage rituel, dérogation qu'elle n'a cessé de combattre. Depuis cette date, elle est végétarienne. En 76, 10 ans avant la création de sa fondation, Bébé se met tout entière au service des bêtes. Elle a trouvé sa mission. Elle n'était pas réellement prise au sérieux comme actrice. Elle ne le sera guère plus comme activiste. Moqueries et critiques pleuvent. On l'accuse de préférer l'animal à l'homme, ce qu'elle a écrit hein, par ailleurs. On lui reproche son agressivité. Pourtant, sa campagne pour faire interdire la chasse aux des blanchons, les jeunes phoques, massacrés pour leur fourrure blanche et lustrée, rencontre un écho dans le monde entier. Bravant le ridicule, elle se rend sur la banquise canadienne. Hein. Donc il y a une photo qui est célèbre, manifestement. Allongé sur la glace, Bardot abrite de son corps un bébé phoque, peluche oblongue au museau troué de deux billes insondables. Dans l'immensité polaire, le regard fondant qu'elle pose sur l'objectif a quelque chose de poignant. Sur cette opération dans le Grand Nord, Bardot a risqué sa célébrité et l'a gagnée. Dès 77, l'importation des peaux de blanchon est interdite en France, puis à partir de 83 dans toute la communauté économique européenne. Donc beaucoup moqué, mais des actions qui ont des conséquences, quoi. À l'origine de l'image de cette mobilisation, il y a eu des lettres. Il y a des lettres, notamment de Marguerite Yourcenar, qui lui a écrit pour la sensibiliser à ce sujet, les bébés phoques, là. Qui lui avait écrit « Je suis persuadé que vous pouvez plus que quiconque persuader le public féminin de boycotter ses vêtements » obtenu au prix de tant de douleurs et d'agonie, et ce qui est peut-être aussi grave, au prix de tant de brutalité, de sauvage cruauté de la part de l'homme. C'est Yourcenar, Marguerite Yourcenar, le grand écrivain, qui sensibilise Bardot, l'actrice, à ce sujet. Quelques années plus tard, Yourcenar rendra hommage d'ailleurs à Bardot. Cybèle, ayant parfaitement réussi ses films de femme-enfant, de femme-objet, elle aurait pu se contenter et même se satisfaire d'être une éternelle jolie femme. À la place de tout ça, elle est devenue la défendresse des animaux. Elle a aussi pris part à la défense de la nature d'une façon excessivement active, excessivement courageuse, et ce d'autant plus qu'elle a trop souvent recueilli, elle aussi, les ironies. Ses prises de position très crues entamèrent son image. Actrice populaire, elle tenait des propos populistes. Salut Noctali. Sur l'islam en France. Sur le métissage, sur l'homosexualité, on en parlait tout à l'heure dans Le Parisien, elle prit des positions condamnables, d'ailleurs elle fut plusieurs fois condamnée, notamment pour incitation à la haine raciale, condamnée en 97, condamnée en 2000, condamnée en 2004, condamnée en 2008. L'abattage rituel pratiqué au moment de l'Aïd el-Kébir était l'une de ses cibles favorites. La dérogation ouverte par la loi de 64 autorisant à égorger les bêtes la rendait furieuse. Elle dénonça aussi la tradition catholique de l'agneau pascal, scandaleuse à ses yeux. Sous prétexte de franc-parler, elle s'exprimait sans nuance. Ainsi, dans Initial Bébé, ses mémoires publiées en 1996, elle confesse en termes crus n'avoir pas désiré la naissance de son fils Nicolas. Salut Skyscream. Force ? Sa notoriété l'avait empêchée d'avorter. aucun médecin n'acceptant d'aider une femme aussi célèbre. Son fils et son ex-mari la poursuivirent pour atteinte à l'intimité et obtinrent le versement de dommages et intérêts. Bardot qui a été poursuivi par le père de son fils Nicolas et par Nicolas. Le public français a adoré haïr Bardot, le livre s'est beaucoup vendu, autant qu'il l'avait admiré. Et à ce point de vue, elle ne l'a jamais déçu. En 92, elle épouse Bernard Dormal, donc l'un de ses nombreux époux, quatrième et dernier mari, un proche du couple formé par Jeannie et Jean-Marie Le Pen. En 99, elle assumait sa proximité avec certaines idées du FN et apporta en 2012 son soutien à Marine Le Pen à l'occasion de la présidentielle. À plus de 85 ans, elle était encore condamnée pour injure publique envers les Réunionnais qu'elle avait accusé en 2019 de barbarie envers les chiens errants nombreux dans l'île. On a un encadré de Libé sur la Brigitte Bardot raciste, ça arrive tout à l'heure. Libération termine par la, vous savez, sa maison de la Madrague. Je passe le passage. Voilà. Les dernières lignes. C'est au Capon, dans une petite chapelle au milieu des arbres, face à la Méditerranée, qu'elle souhaitait être inhumée. Elle était catholique, se disant croyante, mais non pratiquante. Une dernière chose qu'on peut mettre à son crédit, écrit Libé, son mépris orgueilleux de la chirurgie esthétique. Accepter de vieillir comme une marque de grandeur. Elle imposait comme elle était, et on peut reconnaître que ça avait de la gueule. Ouais. Oui, bon. On a l'auteur de cet article dans Libération qui ne montre pas une Marie-Dominique Lelièvre, une sympathie excessive pour Bardot, mais qui essaye de nous dépeindre en clair-obscur qui elle était, quoi. Je vous lis un peu et on terminera avec cet encadré de Libération qui conclut ces 11 pages consacrées à Libé et à Brigitte Bardot. Je suis assez surpris par le nombre d'articles sur Brigitte Bardot, c'est pour ça que ça prend autant de temps ce matin. Intitulé « Une longue dérive vers la haine raciale ». Diatribe xénophobe, attaque contre l'islam, l'actrice était muée au fil des décennies en figure d'une droite identitaire. Qu'il est loin le temps où Brigitte Bardot, morte dimanche, dénonçait les crimes des terroristes d'extrême droite de l'OAS. Parce que l'OAS dont on parlait tout à l'heure, que dénonçait Bardot, c'était un mouvement d'extrême droite. Elle avait 27 ans, 61, quand l'organisation armée secrète, réseau clandestin paramilitaire des partisans de l'Algérie française, avait tenté de la racketter. L'actrice avait répliqué dans l'Express, on en parlait tout à l'heure, publiant la lettre de menace et déposant plainte par l'intermédiaire de son avocat d'abord, Robert Badinter. Elle avait également caché à la même période l'homme de théâtre Antoine Bourseiller, proche du FLN, recherché par le ministère de l'Intérieur, le FLN qui était soutenu par la gauche en France. Voilà. Mais loin de ses engagements de jeunesse, la muse de Saint-Tropez s'était surtout muée ces dernières années en porte-voix de la droite radicale. Adepte des sorties à l'emporte-pièce, des tribunes contre l'abattage halal et autres éloges appuyés de Marine Le Pen, Brigitte Bardot ne s'embarrassait plus de nuances. Que disait Brigitte Bardot ? Alors, surtout un livre « Un cri dans le silence » écrit en 2003, paru en 2003, qui est un peu le résumé de toutes les horreurs qu'elle a pu écrire, où elle disait notamment « On n'a plus le droit d'être scandalisé quand des clandestins ou des gueux profanes prennent d'assaut nos églises pour les transformer en porcheries humaines, chiant derrière l'autel, pissant contre les colonnes, étalant leurs odeurs nauséabondes sous les voûtes sacrées des cœurs. » Je crois qu'elle fait allusion au fait que les églises avaient pu accueillir des migrants. Voilà. Propos qui lui valurent d'ailleurs une condamnation pour incitation à la haine raciale en 2004. Celle dont la première condamnation pour des propos racistes remonte à 97 avait dénoncé à l'époque une victoire musulmane. Engagée de longue date pour la cause animale, l'ancienne actrice avait progressivement glissé vers un discours identitaire, où la défense des bêtes se confondait avec celle d'une conception raciste de la France. En 2019, elle qualifiait la communauté réunionnaise d'origine tamoule d'autochtones qui ont gardé leur gène de sauvage, leur prêtant des réminiscences de cannibalisme des siècles passés. Une population, je cite toujours, dégénérée, encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leur souche. Vocabulaire des racialistes du début du XXe siècle. Pour ces propos, Bébé avait encore été condamné en 2022. Soutien 74 de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. C'est ensuite que Brigitte Bardot a pris une pente plus droitière, amie de longue date de Jean-Marie Le Pen, qu'elle avait rencontré par son quatrième et dernier mari Bernard Dormal, qui fut conseiller du leader de l'extrême droite. Elle disait de Jean-Marie Le Pen, en 2024, qu'il avait raison avant tout le monde. Dans la même interview, elle tressait des lauriers à un Philippe de Villiers, déjà héros des identitaires, et autres cathos radicalisés. Le Front National puis le Rassemblement National fera de l'actrice une icône. Marine Le Pen lui rendra régulièrement hommage, louant son courage et sa franchise. Voilà. Bardot le lui rendra bien. Marine est la seule à aimer la France, déclara-t-elle en 2012. Recluse dans son domaine tropézien, entouré d'animaux et de colère, l'ancien symbole de la libération féminine s'épanchait aussi sous son mépris de la libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles. Dans le sillage de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo, en 2018, elle avait critiqué la vague de dénonciation de harceleurs par des actrices, la jugeant hypocrite, ridicule et sans intérêt. Brigitte Bardot, c'était aussi ça. Voilà. Bon ! Belle page. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec le reste de l'actualité. Voilà, 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 comme dirait Snow. Tiffy écrit en 2024, elle avait 88 ans. Je pense que ceux qui l'ont mis au devant de la scène sont plus coupables qu'elle d'instrumentalisation, par exemple. Citrioa écrit aussi une personne âgée comme beaucoup d'autres, finalement. Bon, tous les personnes âgées ne sont pas racistes. Hein. Enfin! C'est une femme qui a évolué, mais dans le mauvais sens, dit Aleriane. Minos, pourquoi il y a un article sur Bardot, elle est morte? Désolé, je débarque. Oui, elle est morte, dimanche. Salut Jack, bonne journée. Elle soutenait pas le RN? Si, si, bien sûr. Voilà. Quelqu'un me disait tout à l'heure, et quelques secondes dans le chat, merci parce qu'en fait, ce que j'ai vu dans les, à la télé, dans les JT notamment, ne disait pas tout ça. Et pour cause. On a parlé combien de temps de Brigitte Bardot là? Une heure dix, à peu près. En fait, c'est tout l'intérêt de la presse écrite. Et ce qu'aujourd'hui, plein de gens ne supportent plus. C'est que on est dans un, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est vraiment mon combat dans cette matinée Étienne, cette revue de presse. On est dans une époque où la trend, c'est de dire ce qu'on pense sur tous les sujets de la façon la plus condensée possible et de la façon la plus excessive possible. Où tout est organisé pour qu'on... Enfin, c'est ce que cherchent à faire les algorithmes des réseaux sociaux, quand on se laisse prendre par ça. Où on est sommé de résumer la complexité de sa pensée en une phrase. Quand tu résumes une pensée forcément complexe, parce que vous êtes des gens doués d'intelligence. Quand on vous force, quand les algos qui vous manipulent vous forcent à réduire votre pensée en une phrase, en quelques mots sur les réseaux sociaux, voilà, l'algorithme arrive à sa finalité, c'est-à-dire à vous opposer à d'autres gens qui vont réduire également leur pensée en une phrase, et forcément en l'appauvrissant, et en arrivant à des choses dont il manque tout le développement, toute la réflexion, tous les arguments, tous les doutes parfois. Voilà. Et la presse écrite, c'est le contraire de ça. La presse écrite, c'est... Alors, j'ai lu vos commentaires, ils sont très pertinents, mais moi ça ne m'intéresse pas, Brigitte Bardot, pourquoi vous en parlez aussi longtemps? Pourquoi Le Parisien en parle pendant 17 pages? Bon, ça me paraît trop, mais pourquoi Libération en parle pendant 11 pages? Ça me paraît trop aussi, mais... En tout cas, même si ça me paraît beaucoup, puisque moi je n'ai aucun problème à dire que la personnalité de Brigitte Bardot ne me fascine pas beaucoup. Peut-être parce que malgré mon âge avancé, je ne suis pas assez vieux pour avoir connu toute la hype autour de Brigitte Bardot pendant les années 60 et 70. Mais en tout cas, cette démarche de prendre le temps et de consacrer autant de mots à l'analyse d'un personnage aussi complexe que Brigitte Bardot, la démarche est intéressante. Et on devrait faire ça pour tout, en vrai. Le problème, c'est que ça prend du temps, c'est que ça demande des efforts, et c'est tellement plus simple de s'écharper tous ensemble sur les réseaux. Pour ceux qui sont tombés dans le piège, parce que c'est un piège, en fait. C'est un piège, parce que ce faisant, quand vous résumez votre pensée en une phrase et que vous interpellez, qui sais-je, de façon parfois extrêmement violente, pour pas dire insultante, je connais bien le sujet, sur les réseaux, en fait, d'abord vous êtes victime, vous êtes une victime parce que vous êtes tombé dans le piège, et vous nourrissez la machine économique de ceux ou de ces réseaux qui nourrissent de ça, en fait. Vous êtes deux fois victime. Sans compter que vous produisez une violence au quotidien dans notre société qui, au final, va finir par provoquer des dégâts irrémédiables. Et la presse écrite est une forme d'antidote à ça, en prenant le temps. En prenant le temps pour se dire à la fin qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été écrit, tout ça, très bien. Mais au moins, on a réfléchi, on a échangé, on a écouté, on s'est interrogé. Et cette démarche, elle vaut pour tous les sujets. Salut Madame Auban, merci pour ton message. Merci Le Ping Roison, vive la Bretagne, merci pour ton soutien, merci Tchis78, merci Zoro Minou. La presse écrite, c'est génial, c'est juste dommage que les abonnements soient chers, merci de nous lire tout ça. Comment ça coûte un abonnement de journal? Oui, oui, oui et non en fait. Hein. Je sais pas, pour quelques dizaines d'euros, t'as un abonnement annuel à un journal comme ça. Est-ce que c'est si cher? C'est cher par rapport à une information que tu peux trouver gratuitement éventuellement sur Internet, mais quelle est la qualité de cette information gratuite? Tu vois? Et puis t'es pas obligé de t'abonner, en plus tu peux l'acheter que de temps en temps. Il y a régulièrement des offres à 2 euros par mois pour certains journaux. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci. Que sur un sujet qui était un peu sensible, on l'a vu, parce que Brigitte Bardot a quand même pris position sur plein de sujets de façon extrêmement problématique, le chat était plutôt apaisé. Et je m'en réjouis. On passe au deuxième sujet de la journée. Bon, je pense qu'en podcast audio, du coup, il y aura un bloc entier consacré à Brigitte Bardot. On va prendre le temps ce matin, je pense que la revue de presse va durer assez longtemps. Je pense qu'on va largement dépasser les 3 heures. C'est l'esprit de Noël. Ben, c'est peut-être l'esprit de Noël. Ok, on y va? Attends, je vais me prendre une petite boisson. T'as pas vu les messages? Oh, c'est parce que je me suis habitué surtout avec du toit. Tu sais, je suis habitué, hein, on s'habitue à tout. Hein. Allez, deuxième sujet. Deuxième sujet, alors ça, c'est une histoire que je trouve assez dingue. L'histoire de Thierry Breton, là, qui est interdit de sol américain par l'administration Trump. Folie, folie, folie. Dinguerie. Petit article dans l'opinion. Sujet suivant. Hop. Dinguerie, cette histoire. Donc, on est dans l'opinion ce matin, qui revient sur une actu qui est, qui a quelques jours, mais que moi, j'ai pas pu traiter parce que j'étais en vacances, et il faut revenir là-dessus, quoi. Que nous dit l'opinion? Les attaques contre les régulations européennes du numérique montrent qu'il s'agit d'un enjeu capital de souveraineté. La tech et l'IA, point de tension entre les États-Unis et l'Europe. Les responsables politiques européens ont vivement critiqué la décision de l'administration Trump d'interdire de séjour, mais c'est énorme en vrai, 5 personnalités dont l'ancien commissaire Thierry Breton. T'as interdit de séjour quelqu'un d'un pays, le mec a commis des crimes, quoi. Et quel crime est reproché à Thierry Breton? Bah, manifestement, de s'être opposé aux volontés hégémoniques américaines sur le numérique, si je comprends bien. On est dans un monde quand même un peu étrange, non? La Commission européenne a demandé des clarifications et promis, si nécessaire, une réponse rapide et ferme. Lisons. Question de l'opinion. L'Europe est-elle prête à défendre sa souveraineté numérique, prochain terrain d'affrontement entre grandes puissances? Le 24 décembre, joyeux Noël, l'administration américaine a interdit de séjour aux États-Unis 5 personnalités européennes. Quel est leur crime? Quel est leur crime? S'étant mobilisé pour une stricte régulation de la tech. Ok. Ça a changé les États-Unis. L'ancien commissaire au marché intérieur Thierry Breton, le père du règlement sur les marchés numériques et de celui sur les services numériques, donc DMA et DSA, ainsi que 4 représentants d'ONG contre la désinformation et la haine en ligne. Ah bah ouais, criminel les gars. Attends. Criminel. 4 représentants d'ONG contre la désinformation et la haine en ligne. Des gens qui s'opposent à la désinformation? Des gens qui s'opposent à la haine en ligne? Moi je comprends tout à fait que ces gens soient interdits de sol américain.
C'est incroyable.
Dont 2 britanniques et 2 allemandes. Ces mesures relèvent de quoi? De l'intimidation et de la coercition à l'encontre de la souveraineté numérique européenne, a dénoncé le président Macron. Imagine, t'arrives sur le sol américain, on dit non, vous n'avez pas le droit, hein, vous êtes opposé publiquement à des informations et la haine en ligne. Waouh! Pas de réaction en revanche du Premier ministre britannique, ni du chancelier allemand. La présidente de la Commission européenne, voilà, s'est fondue d'un tweet déclarant que l'exécutif européen protégerait la liberté d'expression, sans toutefois nommer Thierry Breton son ancien adversaire, évincé de la Commission en septembre 2024. Ok. Pour les spécialistes, cette réaction n'est pas à la hauteur. On a vu que du côté de Londres ou de Berlin, on dit rien. Côté de Bruxelles, on y va doucement. Imaginez une seconde que cela va en rester là serait naïf, écrit l'entrepreneur Gilles Babinet. L'IA et le numérique vont immanquablement devenir le principal thème d'affrontement entre les États-Unis et l'Europe, tant ces technologies sont appelées à être des facteurs de puissance à moyen terme. Le fait que Thierry Breton a été visé alors qu'il n'est même plus en poste montre que sa remplaçante, la nouvelle commissaire européenne en charge du numérique, Ena Virkkunen, ne se mobilise pas assez pour une application franche du DSA, commente un connaisseur du dossier. La première sanction permise par la DSA a été prise il y a un mois contre X. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ce réseau social ? Sans publicité de la part de la commission après un an d'enquête et pour un montant assez faible au regard de l'éventail des possibles. À l'époque, Ena Virkkunen expliquait être prudente pour ne pas voir la sanction attaquée en justice. C'est probablement cette amende qui a marqué le tournant explosif pour la sphère MAGA qui l'a vu comme une attaque. Or, ce n'est qu'un début car d'autres enquêtes en cours doivent aboutir dans les prochains mois. Le numérique est devenu le terrain des conflits d'empire et le bât blesse sur l'extrême dépendance de l'Europe à la tech américaine et la dépendance de cette dernière au marché européen. Que l'administration Trump réagisse avec une telle violence montre que la tech est sur le point fort de leur économie et le moyen de contrôler les démocraties. Explique Aurore Laluc, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. La priorité doit être de doter l'UE d'infrastructures souveraines dans le domaine des paiements et du cloud. En 30 secondes, les Américains peuvent tout nous couper. C'est l'arme atomique. 60% des paiements par carte des citoyens européens sont effectués par via des réseaux de paiement américains. Visa, Mastercard. Je ne suis pas du tout anti-américaine, mais cette administration américaine d'aujourd'hui mène contre nous une guerre hybride, menace nos juges et certains de nos politiques. Ajoute Aurore Laluc, en référence à Nicolas Guillou, juge français à la CPI, la Cour pénale internationale, sous sanction américaine. Et Thunderbolt m'en parle à l'instant dans le chat. Est-ce que tu connais Nicolas Guillou ? C'est un juge de la CPI, actuellement sous sanction des États-Unis, interdit de séjour, interdit bancaire, car il fait partie de ceux qui ont émis un mandat d'arrêt de Netanyahou, et ce n'est pas la première fois. Pour l'eurodéputé italien Sandro Gozzi, l'interdiction faite à Thierry Breton demande des mesures anti-coercition, alors que l'accord sur les droits de douane noué en août entre Ursula von der Leyen et Donald Trump nous a été présenté comme assurant de la stabilité, de la prévisibilité de notre relation bilatérale. À ce stade, je ne vois pas comment les conditions politiques pour l'approuver seraient réunies, déclare-t-il, alors qu'une procédure de ratification est toujours en cours au Parlement européen. Il y a un édito, si ça vous intéresse, dans Le Monde, sur ce sujet aussi. Fais gaffe avec ton sweat, toi aussi tu vas être interdit de territoire. Alors je signale pour ceux qui nous écoutent en podcast audio que ce matin je porte un sweat, le Gorafi, qui dit « Make journalism great again », que je trouve plutôt sympa. C'est fou cette histoire en vrai. Incroyable en fait. Et il y a un édito de Monde, je voulais pas montrer, mais je sais pas si je l'ai. Ouais, le Monde, il faut que je capture l'écran sur le sujet. Attends, je vais vous le capturer. Je vous fais un petit bonus sur le sujet. Bougez pas. Qui dit que c'est grave et qu'on devrait s'en occuper. Je vous l'enregistre. Et je vous le montre. Hop. Il est là. Hop. Il est là. Régulation du numérique, un nouvel avertissement pour l'UE. Thierry Breton, qui fut commissaire européen chargé du marché intérieur de 2019 à 2024, a raison, écrit Le Monde, de dénoncer un vent de macartisme. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a en effet justifié ses sanctions, donc Breton et quatre autres personnes interdites de sol américain, en dénonçant d'imaginaires idéologues européens. En l'occurrence, écrit Le Monde, c'est plutôt l'État fédéral américain, instrumentalisé par les mastodontes du numérique qui se montrent prompts à exporter au-delà des frontières des États-Unis les barrières culturelles qui les obsèdent. « Les accusations de censure extraterritoriale doivent tromper personne. Ce que ces hyperpuissants du numérique veulent abattre pour pouvoir profiter du riche marché européen, c'est bien un souci légitime de régulation. Et les directives Digital Service Act et Digital Markets Act, donc DSA et DMA, qui y répondent, sont avant tout l'expression de la souveraineté européenne. Le complexe industriel mondial de la censure fantasmé par le département d'État des États-Unis n'est rien d'autre que le produit d'un processus démocratique impliquant les États et les institutions européennes. Si les États-Unis plaçaient encore les vertus démocratiques au-dessus des intérêts de groupes privés, si puissants soient-ils, ils verraient dans le large soutien apporté à ces deux directives européennes l'expression d'une volonté populaire. Ces dernières considèrent que les discours haineux et la désinformation en ligne doivent et peuvent être combattus. Tremble Twitter. Je dis Twitter, c'est X, mais... J'aurais bien vous compreniez que je parle pas du porno, quoi. Thierry Breton avait résumé la philosophie du DSA d'une formule. Ce qui est interdit dans le monde réel l'est aussi dans le monde virtuel. Et elle est plus que jamais d'actualité. Face à Donald Trump, les Européens ne se sont jusqu'à présent convaincus que plier était la moins mauvaise des postures. Ce fut le cas à propos de ces taxes douanières, dont la légalité reste à examiner par la justice américaine. La présidente de la Commission européenne avait assuré que les concessions en matière de taxes douanières du 27 juillet soient un gage de stabilité. La voilà sèchement démentie. Ok. Intéressant, non? Charlie me signale un bon article de Dan Israël dans Mediapart sur ce même sujet. MMG, c'est clair, l'administration US ne se cache plus qu'elle cherche à vouloir jeter l'UE à la poubelle car elle représente un obstacle à ses visions. Après, on en parle beaucoup, me dit Eredius, mais les États-Unis ne pourront rien faire face aux lois européennes. Jamais ils ne peuvent boycotter l'Europe en réponse. C'est une clientèle immense perdue. Rashbait US pour moi, me dit Frolati. Il faut qu'on soit ferme sur nos positions tout en ne surréagissant pas. Les États-Unis sont effectivement un problème pour nous aujourd'hui. Ok. Pas mal? Bon. À suivre donc. Mais intéressant de voir ce bras de fer UE-États-Unis sur la question du numérique. C'est Sansoé dans le chat. Trump se fait le chantre de la liberté d'expression et sanctionne des gens parce qu'ils ont librement exprimé leur opinion et ont agi en conséquence. Je crois qu'on appelle ça un tartuffe. J'ai loupé, il a été dit quoi sur Brigitte Bardot, Luna Piero? Tu as 1h15 à rattraper en replay. Troisième sujet ce matin. On accélère un petit peu. La crise du logement. Merci les échos. Enfin, le vieux crouton que je suis ne cesse de dire que la crise du logement, insupportable, dans un pays comme la France, n'attire pas assez l'attention ni des politiques ni des médias. On a un dossier dans les Échos ce lundi matin, ce lundi 29 décembre. Logement, une crise européenne. Merci, quand même. Les difficultés à se loger en Europe sont telles que la Commission européenne s'est emparée du dossier. Merci. La hausse des prix de l'immobilier commence à avoir des effets économiques et sociaux pervers. Oui, il était temps. En Allemagne ou en Italie, les villes cherchent des solutions pour rendre les logements abordables. Enfin, exutoire écrit dans le chat, si vous voulez, il y a une villa qui vient de se libérer à Saint-Tropez. C'est pas très gentil. Voilà. Moi, je ne comprends pas la sous-exposition du problème du logement dans un pays comme la France. On devrait en parler tous les jours. Ça devrait être à la une des journaux tous les jours. C'est un vrai scandale. Il est temps que cette prise de conscience ait lieu, quoi. C'est pas très gentil, mais c'est drôle, j'avoue. Lisons donc. L'Europe étranglée par la crise du logement. Ah, il faut que je me bouge parce que je parle du nez, je suis désolé. Pardon les gens qui nous écoutent en podcast. Ils ont que le son, eux. Hein. Ça, c'est un bout de mouchoir, là. Vous avez raté le bout de mouchoir qui est resté sur moi. Alors, lisons. Les difficultés à se loger deviennent un sujet macroéconomique, social et politique. Enfin ! Les prix immobiliers sont repartis à la hausse, ce qui exacerbe les difficultés des ménages. Enfin, on en parle. Si la Commission européenne se saisit du problème de logement, qui ne fait pas partie de ses prérogatives directes, c'est bien que l'heure est grave. Alors, attendez. D'ailleurs, à l'automne 2024, pour la première fois, un commissaire européen au logement a été nommé. Voilà. Aujourd'hui, à Bruxelles, on n'hésite plus à parler de crise du logement sur le vieux continent au vu de la hausse des prix. Cette crise du logement gigantesque qu'on vit en France, elle existe aussi dans d'autres pays, quoi. Les familles européennes n'ont pas attendu que l'équipe d'Ursula von der Leyen s'empare du sujet pour le découvrir. Il ne s'agit pas d'une crise immobilière puisque les prix ne baissent pas et que les propriétaires ne sont donc pas affectés. C'est une crise qui touche les locataires et les personnes qui veulent acheter. Et désormais, l'augmentation des prix de l'immobilier commence à avoir des effets économiques pervers, par exemple sur la capacité des personnes à déménager pour saisir les opportunités d'emploi. Les jeunes prennent leur indépendance plus tard à cause des loyers inabordables et la démographie s'en ressent. Donc cette crise du logement a des conséquences sur l'emploi, sur la mobilité et sur la démographie. Des millions d'Européens peinent à trouver un logement à la portée de leur bourse porte-monnaie, hein, en se répercutant sur la mobilité de la main-d'œuvre, l'accès à l'éducation et à la fondation de famille. La crise du logement entrave à la fois la compétitivité de l'économie, de l'Union et notre cohésion sociale. Il y a 3 mois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait reconnu que les infirmiers, les enseignants, les pompiers n'ont plus les moyens de vivre là où ils exercent. Exemple, une étude de la Deutsche Bank estime qu'un couple qui travaille devra consacrer 83% de son revenu disponible au remboursement d'un prêt sur 20 ans pour acheter un appartement de 90 mètres carrés sur Paris avec un apport initial de 20%. 83% de son revenu disponible. La crise accentue ainsi le sentiment de déclassement des classes moyennes et semble activement participer à la fracture sociale et à la polarisation politique. Ça a aussi des conséquences politiques. Rappelons un truc qu'on a vu dans plusieurs articles ces dernières semaines. L'effort à faire pour une famille, pour un couple, un jeune couple, pour se loger aujourd'hui en France, il est sans commune mesure avec l'effort que devaient faire les gens il y a 30 ans ou il y a 50 ans en France, quoi. Il est vrai que depuis 2015, les prix se sont envolés dans bon nombre de pays, notamment ceux de l'Est du continent. En moyenne, dans l'UE, ils ont bondi de 58% depuis 2015. En même temps, les permis de construire, qui ont diminué de 20% en 5 ans, restent à des niveaux historiquement bas. Les obstacles structurels, les coûts de construction élevés, les contraintes réglementaires continuent de limiter l'offre de nouveaux logements et de faire grimper les prix. Il aurait fallu construire 1 million de logements de plus en 2025 dans toute l'UE pour répondre à la demande. Soit un niveau supérieur de 70% aux nouvelles constructions enregistrées cette année. Et vous avez plusieurs éclairages sur l'Allemagne qui veut assouplir ses normes de construction, sur le fait que habiter à Milan, par exemple, est devenu un luxe presque inabordable, des loyers qui ont bondi de 43% en 10 ans, et une bulle immobilière qui chasse les familles de la classe moyenne et les jeunes du centre-ville. Dans ce dossier des Échos. Et je vous lis. Pas étonnant que la construction est en baisse vu le prix des terrains, surtout à cause du prix des matériaux, me dit Arkel. L'État a fortement contribué à la baisse des investissements des particuliers pour construire, me dit Goldor. Salut Psychos. Les villes se plaignent du manque de logements, mais en même temps, elles réduisent le nombre de permis de construire. Lily Drama, j'étais à La Rochelle avant pour un premier CDI, un enfer pour trouver, j'ai trouvé un studio. Maintenant, je suis reparti vivre chez ma mère, quand mes proprios ont vendu l'appart, impossible de retrouver un logement. Du coup, je suis parti, reconversion dans la foulée, 30 ans chez maman, et je n'ai toujours vécu que dans des studios. Les revenus n'ont pas suffisamment augmenté pour qu'on puisse acheter. Il y a effectivement un nombre énorme de jeunes encore chez leurs parents car les loyers sont toujours aussi chers. Le prix des logements ne cesse d'augmenter parce que la tendance que l'immobilier a de devenir un produit d'investissement plutôt qu'un moyen de se loger ne cesse de grandir. Ingénieur en cyber ici, 30 ans, et on vit toujours chez les parents, me dit Kirsha. Ingénieur info, me dit Buran, impossible de trouver une location, il a été plus facile d'acheter en PLSA. C'est un vrai sujet. Pour moi, c'est un des principaux sujets qui devraient être des priorités dans un pays comme la France. Est-ce que c'est la multipropriété le problème? Vous êtes plusieurs à souligner le fait que certains soient propriétaires de beaucoup de logements, c'est la clé du problème. Plus de 50% des logements locatifs sont possédés par 4% des propriétaires, seulement me dit Datik. Merci Kigon. Merci à toi. Les enfants de boomers vont être multipropriétaires, souvent enfants uniques, qui vont hériter de petits empires immobiliers de leurs deux parents et d'essayer, ça va aggraver tout ça ou faire s'écrouler le marché. Selon moi, le plus gros problème, dit Graclock, c'est Airbnb avec tous les logements vides. En soi, les propriétaires à multiples logements, s'ils sont tous en location, c'est pas un réel problème. La multipropriété est l'un des problèmes, dit Marceau, trop de Airbnb, donc à part sortie du marché locatif, et des logements inoccupés. Il y a 2-3 jours, me dit Sensoé, j'ai lu un article façon manuel de survie pendant les fêtes, notamment il y avait la question de moi à ton âge j'étais propriétaire. L'article revenait sur le fait que l'évolution des revenus et des prix de l'immobilier était complètement décorrélée. C'était pas parce que les jeunes seraient plus fainéants ou moins débrouillards. Je me demande si plus qu'un problème immobilier, je me demande si c'est pas aussi un problème de revenus aussi. C'est-à-dire que les revenus n'ont pas augmenté. Il y a une distribution de la richesse dans une société comme la France qui fait que la hausse des revenus n'a pas suivi la hausse des prix de l'immobilier, quoi. Alors que propose l'Allemagne? Attendez, parce que ici on aime bien, j'aime bien me lamenter moi, mais il faut à un moment il faut essayer de voir si certains proposent des solutions. Quelle est la piste sur laquelle voudrait s'engager l'Allemagne? L'Allemagne veut assouplir ses normes de construction. Est-ce que c'est la solution? Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz a présenté un nouveau standard de construction baptisé Type E. Pour Einfach, je parle pas allemand, ou simple en allemand, censé réduire les coûts et redynamiser le marché. Pas de chauffage au sol dans les couloirs, double vitrage au lieu de triple, ventilation manuelle plutôt qu'automatique, réduction du nombre de prises électriques. Ouais, en fait, c'est Dacia. C'est ce que Dacia fait en auto, mais en appart, quoi. Très bien, Dacia. En identifiant 39 mesures de simplification, la ville de Hambourg a contribué à la création d'un nouveau standard en Allemagne visant à réduire d'un tiers, c'est beaucoup un tiers, les coûts de construction pour surmonter la crise du logement. Un tiers, c'est beaucoup. Le modèle développé en collaboration avec les experts du secteur s'attaque aux normes qui ont explosé ces dernières années. Normes énergétiques, techniques, de protection contre les incendies ou d'accessibilité. Rendant la construction de moins en moins rentable pour les investisseurs. Résultat affiché, des économies de 600 à 1600 euros brut par mètre carré. Destiné à relancer la construction pour juguler la pénurie de logements, le gouvernement fédéral s'est inspiré de l'initiative de la ville pour établir un nouveau standard baptisé Type de construction E, simple, dont les points clés ont été adoptés fin novembre au Conseil des ministres, donc c'est une initiative locale. Qui a été faite, merci Sephiroth, tu vas bien? Au niveau national, qui a été adoptée fin novembre au Conseil des ministres, nous voulons créer davantage de logements abordables, dit la ministre allemande du logement. Le type E signifie nous construisons plus simplement, plus rapidement, à moindre coût, sans compromis sur la qualité. C'est possible en nous concentrant sur l'essentiel, des plans compacts, des matériaux robustes et en évitant les éléments superflus. Intéressant. En assouplissant les normes, l'Allemagne veut réduire les coûts de construction qui sont passés de 2209 euros à 4472 euros par mètre carré entre 2000 et 2024. Environ un quart de la hausse est due à l'accroissement des réglementations et la moitié à la hausse des prix de la construction. Ok, c'est une piste. Mais certains dénoncent dans le chat le fait que c'est du coup on va arriver sur des logements de moindre qualité. Vous êtes nombreux à parler des logements vacants aussi. Et si on veut casser le prix de l'immobilier, me dit la Bédoyère, il faut taxer lourdement les logements vacants, arrêter de subventionner le locatif, mettre sur le marché les 5 millions de logements sociaux, les travailleurs vont pouvoir enfin devenir propriétaires. Je vous lis. Je vous lis, je fais pas de sieste, hein, je vous lis. Salut Samuel, bonjour à tous, me dit Mactuzar. C'est marrant que tu parles de ça dans mon village. Un projet participatif est en cours sur ce sujet. On se rend compte qu'entre les logements vacants et les maisons secondaires, ça représente 25% du parc de logements. Entre les logements vacants et les résidences secondaires, 25% du parc de logements de son village. Ça pose plein de questions avant de vouloir créer de nouvelles habitations. C'est ce que disait Sugar, l'ami Sugar, dans le chat. On devrait s'intéresser à la question des logements vides. Pardon. Pardon, pardon à ceux qui nous écoutent en podcast audio. Et un de mes plaisirs, c'est de lire le chat où il y a beaucoup de remarques intéressantes et ça me prend parfois un peu de temps, donc je fais des petites pauses de silence comme ça. Ne m'en voulez pas. Mais le bruit, nous, on a beaucoup de personnes âgées en EHPAD qui ne veulent pas vendre leur maison où ils n'habitent plus depuis des années. C'est compliqué d'interférer avec cette liberté aussi. Les gens, ils font ce qu'ils veulent un petit peu de leur logement aussi. Quelle serait la proposition du président Samuel? Eh ben, j'avoue que je n'en ai pas. La question du logement me semble d'une complexité telle que je constate le problème, mais j'avoue que j'aurais du mal d'un coup de baguette magique à vous proposer des solutions, quoi. On pourrait aussi travailler sur les raisons pour lesquelles certains propriétaires rechignent à louer, me dit Tenry. Ouais. En tout cas, je prends l'engagement ici devant vous qu'on va continuer à se pencher sur le sujet et lire des, bah, notamment des pistes. Par exemple, je vous l'ai pas lu, mais il y a un article dans Les Échos, un édito, quelqu'un qui donne son avis, qui dit que l'encadrement des loyers, par exemple, n'est pas une solution, c'est une solution de court terme qui va permettre de faire gagner un peu de pouvoir d'achat. À certains ménages, mais qui aura de telles conséquences négatives sur le marché, je vous résume un petit peu sa pensée, en dissuadant les propriétaires d'investir, éventuellement de construire, que à moyen et long terme, c'est une catastrophe. Yacine, mon papa est dans ce cas, il a payé sa maison, il paie la taxe foncière, il n'a pas le choix d'y aller car il est malade, il n'a pas le droit de. Mais il a le droit de garder sa maison. Hein. Il paie plus de 2000 euros par an de taxes sur les logements vacants. C'est scandaleux, me dit Yacine. Merci Ursien pour ton 30e mois. C'est beaucoup. Hein. Radi Laser, personnellement, je penche pour une solution plus radicale, la propriété unique. Obliger les multipropriétaires à vendre et pousser l'accès à la propriété pour tous. Marceau, je pense qu'il faut que les revenus suivent les prix de l'immobilier. Perso, j'ai un bon salaire pour vivre, mais pas pour me loger, c'est une folie. C'est-à-dire que j'ai de quoi économiser un peu chaque mois, mais pas de quoi avoir un bon dossier pour être locataire d'un studio. J'en ai chié pour trouver le mien. Et il faut trouver aussi un axe pour limiter les libertés de la multipropriété, par exemple, un quota peut-être d'Airbnb par ville. Certaines villes l'ont déjà mis en place, ça, tu sais, en France et à l'étranger. Unique, c'est un peu fort, me dit Kirsha, mais trois maisons, trois logements max par foyer, ça peut s'entendre. C'est ce que dit Lixie Game aussi. La limiter, ce serait déjà très bien. L'interdire, peut-être pas. Merci, merci le Pinpick. Merci, Babies89. Merci à vous deux. C'est intéressant, ça. Ce débat-là. Non pas sur l'interdiction de la multipropriété, mais sur sa limitation. Ça sert à rien de construire. Il y a combien de logements en France qui sont vides ou réservé exclusivement pour du Airbnb, il faudrait réserver ces logements-là au locatif ou à l'achat, dit Katanas. Il y a politicien savoir qui dit, je vois pas pourquoi on aurait besoin d'avoir plus de deux maisons. Bah, il faut que... Pour qu'il y ait un marché locatif... Je ne suis pas spécialiste de l'immobilier, mais ça me semble basique quand même. Pour qu'il y ait un marché locatif, il y a des gens qui veulent devenir propriétaires, il y a des gens qui veulent être locataires. On est d'accord. Notamment parce que, je sais pas, ils sont au début de leur carrière, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter, ou pas maintenant, peut-être plus tard, etc. L'occasion d'un déménagement, etc. Ou de la rencontre de l'être aimé, etc. Bah, pour qu'il y ait un marché locatif, il faut qu'il y ait des multipropriétaires. Il faut qu'il y ait des propriétaires de logements. Propriétaires de leur logement, au-delà de leur propre logement à eux. Sinon, il n'y a pas de marché locatif. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut encadrer. Tout le monde ne veut pas forcément être propriétaire tout le temps, quoi. Alors, imagine, je sais pas, tu es au début de ta carrière, tu travailles à Montpellier, je dis n'importe quoi, mais tu sais que tu vas bouger, tu n'as peut-être pas envie d'acheter ta maison à Montpellier ou ton appartement à Montpellier. Tu sais peut-être que tu vas revenir en Bretagne, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ou dans le Nord, ou que sais-je, ou à l'étranger, tu vois. Donc il faut qu'il y ait un marché locatif. Pour qu'il y ait un marché locatif, il faut qu'il y ait des multipropriétaires. Mais c'est intéressant. Laissez notre Bretagne tranquille. Bon, ça va, les gars. C'est pas insultant de dire que c'est humide quand même, hein. J'ai le droit, je suis breton. Ok, bon, on y reviendra en tout cas. Sujet intéressant. Kerax, je suis désolé, mais les réponses dans le chat par rapport à la propriété me font peur. Je me sens comme un URSS. Moi, j'ai deux appartements, c'est pas simple. Et en fait, c'est mon avis et mon droit d'investir pour gagner de l'argent. Merci Drakeos pour ton raid. Comment vas-tu, mon ami? Brigitte Bardot ce matin, un petit peu? Drakeos, il parle d'actu. Allez, sujet suivant. Mélenchon! Ah! Alors. Sur un truc dont je n'avais pas entendu parler, moi. La Nouvelle France, le concept de Nouvelle France. Un petit mouchoir et on attaque. C'est pas inintéressant. Ça faisait longtemps. Bah, c'est pas souvent que je parle de Jean-Luc Mélenchon, en vrai. pas souvent en vrai. Mais là, je connaissais pas ce concept. Je trouve ça intéressant. Mélenchon qui s'empare du sujet de l'identité. Et qui propose une vision de la France, nous dit Le Monde, c'est dans la dernière édition du Monde, en miroir opposé sur l'identité à celui de l'extrême droite.
Alors.
Dimanche 18 novembre 2018, oh bah c'est, en vrai c'est ancien, Épinay sur Seine, 18 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, qui a raté la marche du second tour à 600 000 voix près, participe aux premières rencontres nationales des quartiers populaires, où aux acteurs de ces quartiers, il proclame « Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de vous le dire, ce que vous voyez là, c'est la nouvelle France. »
C'est quoi ?
Merci Képer. Ce jour-là, le leader de la France insoumise vient d'étrenner un nouveau concept politique. Depuis, le slogan a pris de l'ampleur dans le logiciel idéologique insoumis. En 2024, la campagne des européennes, marquée par la dénonciation de la guerre à Gaza par la juriste franco-palestinienne Rima Hassan, se clôt sur ce thème. Cette nouvelle France, c'est nous, les bigarrés, les mélangés, qui refusons absolument le venin qui leur permet de rester au pouvoir, la division du peuple par le racisme, déclare Jean-Luc Mélenchon en meeting à Lyon le 6 juin. Au soir du vote, il précise une géographie, celle des grands ensembles urbains. Cette nouvelle France, le leader insoumis, compte en faire une arme dans la bataille contre l'extrême droite lors de la présidentielle de 2027. Il y a deux visions, dit-il. Celle de la droite et de l'extrême droite qui conduit droit dans des affrontements. Face à cela, nous offrons une vision optimiste, positive de l'histoire en disant qu'il y a un débouché pacifique. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une manière de s'approprier le thème de l'identité nationale dans une période où les droites ont accaparé la question en renouant avec l'idée barésienne d'une France éternelle, attaquée et en déclin. L'ancien sénateur crée un récit en miroir, antiraciste, décolonial, de la même manière que le concept de créolisation, emprunté au penseur martiniquais Édouard Glisson, lui a permis de faire campagne contre Éric Zemmour et sa reprise dans son discours du grand remplacement en 2021 et 2022. Le 30 octobre, après l'adoption à l'Assemblée d'une résolution du RN visant à dénoncer les accords franco-algériens de 68, cet effet de miroir était particulièrement visible. En disant la douleur de nous, Français nés au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, et qui avons encore et des amis et nos tombes, il inversait presque mot pour mot le discours sur l'identité nationale prononcé par Maurice Barrès en 1899 sur « La terre et les bords ». Et assumait de s'adresser à deux France à réconcilier, vous la France de toujours et la nouvelle France, pour vous dire à quel point il est urgent de tourner la page de la violence. Jean-Luc Mélenchon, qui dès sa première campagne présidentielle de 2012 défend le métissage comme une chance, revendique désormais, c'est classique pour un candidat, d'incarner la France, ou plutôt une France. Ce faisant, il porte une partie de l'héritage socialiste autour de l'identité, comme le remarque un spécialiste de politique, Vincent Martini, qui explique « Dans la créolisation, on entend la gauche socialiste des années 70 et 80, qui défendait alors le droit à la différence, une sorte de multiculturalisme qui ne dit pas son nom. En 2007, Ségolène Royal avait elle aussi choisi de s'inscrire dans cette ligne en faisant campagne sur la France métissée. François Ruffin, le député debout de la Somme, est assez sévère avec ce concept. Son mentor François Mitterrand avait glissé son trop de douleur du combat social économique vers celui des valeurs. Mélenchon fait de même 40 ans plus tard. De son côté, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, aimerait ne pas laisser à Jean-Luc Mélenchon le monopole des discours de gauche sur l'identité. Le PS a longtemps préféré se taire sur ces questions inflammables. Le projet avorté de François Hollande d'instaurer la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme à la suite des attentats du 2 novembre 2015 a laissé des traces. Le piège, c'est d'avoir laissé la droite et la droite extrême s'engouffrer dans une vision identitaire de la France. C'est une erreur de ne pas avoir su répondre à cette question, reconnaît Olivier Faure, qui était prêt à participer au débat sur l'identité nationale que voulait lancer François Bayrou en février. Je ne me rappelais pas de ça, moi. En vrai, ça aurait été intéressant. un débat sur l'identité nationale. J'avais pas vu que Bayrou voulait faire ça. Olivier Faure a demandé à l'ancien député et sénateur Gaëtan Gors de réfléchir à la question. Ce dernier, s'il juge intéressant l'apport de Jean-Luc Mélenchon, estime que cette nouvelle France a des défauts symétriques à ceux de la France éternelle défendue en face du côté de l'extrême droite. Le récit national, ça n'est pas ressusciter une France passée, comme le font droite et extrême droite, ou inventer une nouvelle France, mais parler de la France. Ce que la gauche ne faisait plus, en lui faisant prendre conscience d'elle-même, retrouver confiance. À gauche, le concept de Jean-Luc Mélenchon provoque deux réactions, pas forcément antagonistes. Beaucoup y voient une forme d'un lieu commun habillé d'un terme un peu pompeux. Ils se bornent à constater ce qui est, c'est-à-dire que la France est un pays métissé. Il y a plus d'enfants issus de l'immigration qui vivent en ville, analyse un ancien allié, le député socialiste du Val-d'Oise, Emmanuel Morel, il dit « bon bah, on enfonce un peu une porte ouverte ». Le danger est que la France désindustrialisée, des zones rurales sans immigration, se sent visée par ce concept. Et que plutôt que de combattre le grand remplacement, cela revienne à le nourrir, mettre en garde le député. C'est ce que dit aussi Alexis Corbière, ancien proche de Mélenchon, qui estime que l'exercice est périlleux. Tout cela peut se retourner comme un gant. En effet, le potentiel de fracturation du concept interroge. Dans son dernier livre, François Ruffin estime que cette nouvelle France, en creux, ça s'oppose à la vieille France des campagnes racistes colonialistes. Notre gauche rassemblait le peuple sur une base de classe, d'intérêts matériels et travailleurs, quand la gauche parlait aux travailleurs. Aujourd'hui, lui divise le peuple sur une base géographique, voire ethno-géographique. C'est pas intéressant comme débat. Pour Raquel Garrido, ancien avocat de Jean-Luc Mélenchon, ex-député LFI désormais en rupture avec lui, ce dernier se trompe, se fourvoie. Il n'y a pas de Nouvelle France. Il n'y a pas de président de la Nouvelle France. Cette fonction n'existe pas. Se contenter d'être le porte-voix d'une Nouvelle France montre que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon n'est pas de présider la France, mais de rassembler un secteur électoral dans la défaite. La Nouvelle France n'est pas qu'un concept, c'est aussi une stratégie. Si l'on pense aux propos de Jean-Luc Mélenchon en septembre 2024 à Paris, à une militante, quand il lance « Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires et tout le reste laisser tomber, on perd notre temps. » La Nouvelle France est aussi pour l'ancien laïcard qui était Mélenchon. Une nouvelle manière d'aborder le fait religieux. Au fil des années, Mélenchon a amendé sa définition de la laïcité dans un sens plus protecteur des pratiques individuelles, à l'heure où les musulmans sont la cible d'une opération de stigmatisation massive à la droite du champ politique. Mélenchon qui dit « J'ai renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier duquel je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser dans le passé. » Ses détracteurs l'accusent d'accompagner de manière opportuniste la montée de la religiosité dans les quartiers et chez les jeunes, à l'heure où l'ancien sénateur défend le droit pour les parents de transmettre leur foi à leurs enfants. Ok, intéressant. Je ne connaissais pas ce débat-là. Je vous lis. Merci Nightwolf. Merci pour le prime. Je vous lis. Je ne comprends pas le problème qu'on essaie de résoudre. C'est pas un problème, Pilate. C'est très abstrait comme concept, mais quelle est la proposition ? Bah, c'est à la fois un constat et une proposition. C'est-à-dire, le constat, c'est que c'est de forger un concept de nouvelle France qui s'oppose à celui de France éternelle, la France d'avant, défendue par l'extrême droite notamment. Et la proposition, c'est de s'adresser aux électeurs de cette nouvelle France pour aider Jean-Luc Mélenchon à accéder au pouvoir. Constat et programme, quoi. Je vous lis. Plop. Bonjour tout le monde, meilleurs vœux. Alors que se passe-t-il dans le monde? Est-ce que les guerres sont finies? Est-ce que les maladies sont éradiquées? Est-ce que les richesses sont réparties? Est-ce que tout le monde est heureux? Non. Ouf, Samuel va pouvoir continuer les revues de presse. Ah, sauf qu'il y a une nouveauté. Le samedi désormais, je vais essayer de le faire dès samedi après-midi, il y aura une revue de presse des bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a marre de vous raconter que des mauvaises nouvelles. Et donc, je vais, à compter de samedi, essayer tous les samedis après-midi de vous proposer une revue de presse des bonnes nouvelles en vous mettant de côté toute la semaine des bonnes nouvelles pour qu'enfin j'ai les trucs positifs à vous raconter. J'ai commencé à en mettre de côté ce matin. Voilà. Ça, ce sera samedi après-midi, ça. Je ne l'ai pas encore annoncé à mon épouse, par contre. Ça fait une revue de presse de plus. Ça fait 6 revues de presse par semaine. C'est une petite nouveauté de la rentrée. Du coup, il n'y aura plus aucune bonne nouvelle pendant la semaine. Si, bien sûr que si, bien sûr. Comme elle t'aime, elle dira oui. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ça concerne la revue de presse. Bah non, bah disons que le samedi après-midi, en général, j'étais plutôt avec les enfants, quoi. Mais je vais dealer. Samedi matin, je suis avec les enfants parce que je les accompagne au sport. Et souvent, moi, je stream pas le samedi après-midi, je stream le samedi soir. Je fais du gaming le samedi soir. Je vais sacrifier mon gaming du samedi soir et le remplacer par la revue de presse des bonnes nouvelles le samedi après-midi. Comme ça, je vais dire à Hélène, alors je vais streamer le samedi après-midi, je streamerai plus le samedi soir. À un moment, les gars, il faut mettre des choses dans la balance. Hein. Sinon, Hélène, elle va dire, t'es gentil. Je vais rentrer, la serrure aura changé. Hein. Donc on va sacrifier le gaming du samedi soir. Comme ça, je passe la soirée en famille le samedi soir. C'est cool aussi. Ah oui, bah oui. C'est bien le stream, mais la vie de famille, c'est plus important. C'est... Ah, voilà. Et le samedi la nuit? Non, ne dites... Non, le samedi la nuit, je... Ah, tu veux dire quand les enfants seront endormis le samedi soir? Ah oui. Quand Hélène et les enfants seront endormis le samedi soir, qu'est-ce qui se passera? Alors ça, j'avais pas prévu d'en parler. Peut-être qu'Hélène est devant ce stream ou qu'elle regardera le replay. Donc je ne vais pas évoquer cette hypothèse. Chut. Voilà. Bon, sujet suivant. Sujet suivant. Ah ! Pardon. Les municipales. 25 ans après, parce que c'est 25 ans que Paris est dirigé par la gauche, on l'a des municipales dans moins de 3 mois, mesdames et messieurs. 25 ans après, est-ce que Paris peut revenir à droite? Voilà, on va. Bon, je pense que pendant 3 mois, je ne vais pas vous lire des papiers tous les jours sur les municipales, notamment que parce que quand je parle d'une ville, ça n'intéresse pas forcément les autres, mais on va en lire de temps en temps. Voilà. Est-ce que Paris va revenir à droite? Paris du temps de... Je sais pas qui a été maire de Paris, Jacques Chirac. Thibéry, il a été maire de Paris aussi, non? Et là, bah, depuis 25 ans, Delanoë, Dati, Hidalgo, la gauche, quoi. Alors, lisons cet article. Est-ce que 25 ans après, Paris peut revenir à droite? Jacques Toubon? Ah ouais? Ah, j'ai oublié ça. Jacques Toubon était maire de Paris? Ok. À moins de 3 mois des municipales, la Croix décide de faire le point sur les rapports de force dans les 3 plus grandes villes de France. Donc on aura Paris et Lyon et Marseille dans les prochains jours. À Paris, aux mains de la gauche depuis 25 ans, l'explosion des prix de l'immobilier qui chasse les professions intellectuelles pourrait faire pencher la balance à droite. En 2001, le socialiste Bertrand Delanoë s'emparait du fief de Jacques Chirac, premier édile élu en 77 au suffrage universel depuis la défaite de la Commune un siècle plus tôt. J'apprends déjà que, en fait, il y a, avant 77, il n'y avait pas de maire de Paris. J'avais oublié ça, moi. Bah, en même temps, j'avais 6 ans. L'histoire politique contemporaine de la capitale se résume ainsi à une équité presque parfaite. 24 ans de gestion à droite, avec Jacques Chirac, puis brièvement Jean Tiberi. Bah oui, c'est bien ce que je disais, Jacques Toubon n'a jamais été maire de Paris. Il a été maire d'arrondissement. Des bêtises, le chat. 25 ans à gauche, avec les deux mandats qu'Anne Hidalgo a ajoutés aux deux mandats de Bertrand Delanoë. Ok. Autant dire que le scrutin municipal de mars 2026 présente un arbitrage attendu dans le match qui se joue entre les deux grandes forces politiques, les extrêmes ne tenant qu'un rôle secondaire et le centre n'ayant jusqu'à présent jamais réussi à se créer un espace. Candidate de la droite, salut Chronambule. Rachida Dati, peut-elle coiffer Emmanuel Grégoire, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui endosse le statut de dauphin malgré leur brouille, parce que M. Grégoire et Mme Hidalgo, ils sont fâchés. Défi compliqué, mais pas impossible, alors que les évolutions sociodémographiques renforcent l'ancrage à gauche des grandes métropoles où sont surreprésentés les jeunes actifs et les professions intellectuelles, plus progressistes et écologistes. Car si cette tendance est à l'œuvre dans la plupart des grandes villes françaises, Paris marque le pas en raison des prix de l'immobilier. Et on revient à l'immobilier. Alors c'est ce qu'explique le politologue Jean-Yves Dormagen. Les habitants qui travaillent dans les ONG, dans les médias, dans la culture ou dans la recherche sont contraints de fuir la capitale pour des raisons de pouvoir d'achat et l'immobilier fige la situation. Structurellement, les grandes villes attirent, nous explique l'article, des gens plus jeunes, dans les professions plus intellectuelles, qui, en moyenne, votent plus à gauche qu'à droite. Mais quand le prix de l'immobilier devient à ce point élevé dans une ville comme Paris, par exemple, pour que ces personnes dont on vient de parler ne peuvent plus se loger dans Paris, eh ben, les cartes sont redistribuées. Voilà. Madame Dati, elle prend sa main et voit, ah, j'ai un as de cœur. Le spécialiste de l'opinion observe surtout une forte polarisation des débats politiques au niveau local, particulièrement à Paris, qu'il explique par un effet de retour de bâton. C'est parce que les métropoles se boboïsent que se radicalise une partie de l'électorat de droite ou même centriste qui ne se reconnaît plus dans ces villes jugées sales, dangereuses ou trop contraignantes pour les voitures. Ainsi, les études montrent que c'est le sujet de la sécurité qui est devenu une priorité pour les municipales. À Paris, la tonitruante ministre de la Culture joue à 100% sur ce ressentiment. Elle est toujours ministre de la Culture, Rachida Dati. Sur TikTok, Rachida Dati multiplie les vidéos contre les détritus qui défigurent la ville. Sa tournée avec les éboueurs fait 5 millions de vues. Ou les campements de migrants. En promettant des policiers municipaux armés. Oh là ! Ah ouais ! La candidate LR veut sortir du déni idéologique de l'équipe sortante. Sa campagne reste toutefois suspendue aux évolutions de plusieurs procédures judiciaires la visant pour des soupçons de corruption. Ah ! Pour contrer cette offensive de Madame Dati, le placide Emmanuel Grégoire met en tête de ses priorités la lutte contre le logement cher et la défense des services publics afin de répondre aux préoccupations de pouvoir d'achat. Thème qui, aux États-Unis, ont valu sa victoire au nouveau maire démocrate de New York, d'ailleurs. La majorité sortante veut en outre accélérer la transformation écologique de Paris, convaincue que les grands acquis des mandats socialistes, piétonnisation des voies sur berge, développement des pistes cyclables, sont dans le sens de l'histoire. À moins de 3 mois du scrutin, le rapport de force reste incertain. C'est qui va gagner? Je vous le demande. Selon un sondage Ipsos publié le 14 décembre dans le Parisien, une liste d'union de la gauche PS, écologiste et communiste, suivie de celle de Rachida Dati, passerait largement en tête au premier tour, mais l'écart entre les deux est mince. Le centre est divisé entre Renaissance, qui soutient Pierre-Yves Bournazel, et le Modem, qui se range derrière Dati. À gauche, les partis de la majorité sortante se sont entendus pour s'unir dès le premier tour. Donc a priori, ça vise la qualification pour le deuxième tour. Emmanuel Grégoire a besoin de cette dynamique, car il pourrait être en difficulté si la candidate LFI, qui n'est pas dans cette union de la gauche, Sophia Chiricou, parviendrait à se maintenir au second tour. Scénario fort probable au regard de la poussée du vote pour les insoumis dans les quartiers populaires de la capitale. J'ai pas dit Chiquirou. J'ai mal prononcé, je pense. Pardon. Shikiru. J'ai dit quoi? J'ai dû dire une bêtise. Pardon. Je suis malade, j'ai un virus. Je m'excuse auprès de madame Sophia Shikiru. Excusez-moi. Il reste enfin difficile d'anticiper les effets du nouveau mode de scrutin en vertu duquel... Ah oui, il y a un changement du mode de scrutin. J'ai dit Shikiru, comme Kirikou. J'ai désolé. J'ai honte. Attention, il y a un nouveau mode de scrutin. Oui, bah je m'excuse, ça arrive d'être malade. Ça me rend pas plus malin, quoi. Il reste enfin difficile d'anticiper les effets du nouveau mode de scrutin en vertu duquel les Parisiens auront deux bulletins de vote. L'un pour élire les conseillers d'arrondissement et l'autre ceux de Paris. La bataille pourrait se jouer dans un mouchoir de poche. Il y a bien des nœuds au tissu. C'est assez intéressant, en vrai. C'est marrant, on parle pas du RN. Merci, Mélissa Japon, comment vas-tu? Merci pour ton raid. De la musique? Il y avait de la musique? N'hésitez pas à suivre la chaîne de Mélissa Japon. On parle pas du RN parce que historiquement, l'extrême droite fait de très faibles scores à Paris. Salut Mélissa. Avec ces affaires, est-ce que Dati ne risque pas l'inéligibilité? Ben, on verra bien. On verra bien. Mais c'est serré, nous dit l'article. C'est pas inintéressant, en vrai. Hein. À suivre.
C'est dans pas longtemps. Hein.
Le RN, ils sont là dans nos campagnes. Je veux pas l'accent. Hein. Dit à la Playa de Coco, dans les grandes villes, ils font pas souvent des gros scores, je me trompe. Oui. Ben, à ce jour, le RN a échoué à diriger de grandes villes. C'est-à-dire que les intentions de vote dans les sondages montent depuis des décennies. Les scores du RN à la présidentielle et aux législatives... ne cesse de monter, mais outre, il y a quoi, à part Perpignan, le RN qui est quand même dans la vie politique française depuis longtemps, hein, avec le FN, à ce jour n'a pas réussi à prendre le pouvoir dans de grandes villes. Quoi. Merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la commune. Perpignan, je crois que oui. Grande ville, Paris, Lyon, Marseille, enfin vous les connaissez toutes quoi. C'est Louis Alliot à Perpignan? Merci. Perpignan. Pourquoi je connais cette ville? Ah oui, parce que je me suis fait tatouer là-bas. Bon, on reparlera des municipales. Ok. Et on va se terminer. Et on va se terminer sur les idées reçues sur le froid. Voilà. Et ça tombe bien, il fait froid. Alors, le Parisien nous propose un article sur il faut démêler le vrai du faux sur le froid. Les idées reçues sur le froid. Le froid qui a pris place sur une large partie de la France, il fait froid. Attends. C'est rare les bad def dans cette commune. Attends, faut... j'aime bien, je vais aller voir l'historique, un petit plaisir. Parce que je trouve que vous avez été assez sage ce matin. Je vois qu'il y a eu un bad def, j'ai envie de me régaler de l'historique, tu vois, pour le plaisir. Hein. Ah! J'ai pas fait le bon copier-coller. Attends. Voilà. J'ai le droit à un petit plaisir quand même. Ah, je l'ai. Alors, historique, 24 messages seulement. Bandev direct. Oh non, pas Bandev. Non.
Non. Non. C'est un peu sévère.
Ah ben non. C'est un peu sévère.
Oh ben non. Bande de guignols, on a le droit à ça tous les jours. Un petit théo de cool down. Hein? Allez, non, c'est un peu sévère. Hein? En plus, un Montpellier. Hein? Je pense que c'est un misclic. C'est un misclic.
Ça valait un petit théo, Max.
Je pense que c'est un misclic.
La Luige, tu es de retour parmi nous.
Non, il disait, c'est à propos de Ménard, et il disait, Ménard, il est pas au RN, bande de guignol. C'est vrai, Ménard, il est plus au RN. Bon, c'était un peu à chaud, mais ça valait pas un ban d'ef.
Surtout que c'est une vraie info, en plus.
Il est pas au RN. C'est la grâce présidentielle, voilà. Mais merci au travail des modérateurs qui font un travail de fou, quoi. Donc, bon retour parmi nous. Ben, le froid. Alors, le froid. On démêle le vrai du faux sur le froid. Le froid a pris place sur une large partie de la France, d'accord ? Avec des températures négatives, l'occasion de passer au crible certaines idées reçues sur notre santé. Avait-on presque oublié le froid ? La France vit sa période des fêtes la plus fraîche depuis 2010. Donc, ceux qui disent oh, arrêtez, il fait froid, oui, comme tous les hivers. Non, il fait très froid. On n'a pas eu d'hiver aussi froid depuis 2010. Tous ceux là qui vont. Vous êtes au bureau en famille, il fait froid. Et ben, t'as tonton Roger, là, toujours à critiquer tout le monde. Là. Ah, t'es pas encore marié, toi. À ton âge, j'avais déjà acheté mon appartement. Tonton Roger qui veut dire, oui, bah, il fait froid, comme chaque hiver, voilà l'info. Il a pris un premier apéro, il est déjà un peu chaud, tu vois. Tu lui dis, il a jamais fait aussi froid depuis 2010. Voilà. Alors, le problème, c'est quand tu dis ça à tonton Roger, surtout après le premier apéro, c'est qu'il va te dire, ouais, bah, c'est. Alors, tu vois, le réchauffement climatique, je t'avais dit que c'était des conneries. C'est le risque. C'est que du coup, il se sert de l'argument pour dire une autre connerie. Mais bon. Après, tonton Roger, j'ai rien contre les Rogers, j'aime beaucoup les Rogers. Il est indécrottable, donc tu vas pas le rattraper, surtout pas à Noël, surtout pas bourré, quoi. Donc, tu fais pas attention, tiens à toi un verre, ça va bien se passer. Donc, mais en tout cas, il a jamais fait aussi froid depuis 2010. Mais ça n'a rien d'exceptionnel pour la saison non plus. Mais, comme à chaque fois, les vagues de froid alimentent de nombreuses idées reçues sur notre santé. Démêlons le vrai du faux. Le froid fait tomber malade. Faux. Alors moi, c'est un truc que j'ai toujours... Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus dans un instant, mais je m'interroge là-dessus, moi. Alors, le froid fait tomber malade, c'est faux. Bon. Sans doute, l'une des croyances les plus répandues sur le froid. Pourtant, les maladies comme le rhume ou la grippe font uniquement suite à une infection par un virus, une bactérie qui circule davantage en hiver. Ça, je le sais, je le sais. Autrement dit, le coup de froid lui-même n'existe pas. En revanche, rester confiné avec d'autres personnes peut favoriser la transmission des virus. Moi-même, je suis enrhumé. Si on tombe plus facilement malade en hiver, c'est d'abord parce qu'on passe plus de temps à l'intérieur, dans des espaces clos et peu ventilés, dit une docteure. Alors moi, je vais prendre un exemple. À Paris, je ne sais pas combien il fait, 2 degrés ou 3 degrés. Il est 12h51. Là. Je me déshabille. Je me mets en caleçon. La Luige, mais oui, mais c'est un misclic, la Luige reste avec tout. Je me mets en caleçon, je mets mes claquettes. Mais pas claquettes, chaussettes, claquettes, caleçon. Je vais aller me promener une heure dans Paris. Avec les tétons qui pointent à cause du froid. Est-ce que je vais pas tomber malade ? Bien sûr que je vais tomber malade. Alors moi, je me pose des questions quand même. Que le froid, ça fait pas tomber malade. Moi, je pose une question, moi. Ouais. Hein, désolé, mais moi, au bout de 10 minutes, je vais renifler. Je vais avoir la goutte. Au nez. Au nez. Hein, je vais éternuer. Donc, je pose la question. Les médecins du chat. Ah, quand même, voilà, c'est ça qui manque dans l'article. Merci beaucoup, c'est ça que je voulais provoquer. Equentra, ce n'est pas le froid qui te rend malade, c'est les maladies qui se développent car tu seras plus faible. En fait, le froid, je crois, baisse, comment dire, la réponse immunitaire, quoi. Hein ? Non ? Il n'y a pas un truc comme ça ? Ah, le froid peut fragiliser la barrière cutanéo-muqueuse, me dit Akara, notamment au fond de la gorge, en laissant proliférer les bactéries virus. Donc il y a un truc. Merci Nawal Paris. Le froid amoindrit l'efficacité, le barrage microbe Anko par les poils du nez. Donc il y a un truc. Ah. Ah. Le froid rend pas malade, c'est comme dire les rapports sexuels ne donnent pas d'IST, c'est un vecteur catalyseur, mais oui, techniquement, c'est le virus, la bactérie qui rend malade. Mais le froid participe à, facilite.
Ouais, ouais.
Voilà, tu te rends malade car ton corps devra générer de la chaleur, aura plus de mal à défendre ton corps des maladies, c'est ça. Non, ne me dites pas qu'il y a Hélène dans le chat. Il y a Aéronil qui dit coucou Hélène. Hélène, t'étais là quand j'ai dit que j'allais me promener en caleçon avec les tétons qui... Ne me dites pas qu'on épousait là. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai dit que j'allais me promener quasiment à poil dans Paris, les tétons qui pointent à cause du froid, non.
Elle est dans le chat, Hélène ?
Oh, Hélène a sub, oui. Tu es là, ma puce ?
Ah, ok.
Ok. Merci pour le 43e mois d'abonnement, j'ai mon amoureuse qui vient de resub. Ok. C'était une image, c'était pour faire comprendre... Ah, elle est là. Ah, tu étais là. En fait, c'était pour faire comprendre, tu vois, je m'interrogeais sur le fait que les mecs, ils disaient que le froid rendait pas malade. Ok. C'était une image, quoi. Mais je n'ai pas prévu de le faire. J'espère que... Ça va. Ok. C'est tout que les conditions sont meilleures, la prolifération des bactéries et des virus dans le froid. Ouais, donc il y a bien une histoire. Il y a bien une histoire. Ok, donc le froid fait pas tomber malade, mais il y participe quand même. Ok. Ah, celui-ci est intéressant, cette idée reçue. Est-ce qu'il faut manger plus en hiver ? Tu sais, les gens qui disent, ouais, mais tu peux... Pourquoi il y a ça à l'écran, là ? Hein ? Il faut manger plus en hiver. Mais il fait froid, tu peux manger plus. Hein. On a le droit à l'hiver. En partie faux. On l'entend souvent, notre corps aurait besoin de davantage de calories en hiver. Allez, la petite raclette. Allez, la petite croûte aux morilles. Allez, on va se faire un petit... je sais jamais, le tacos, là, avec des frites dedans, là. Hein ? Notre corps aurait besoin de davantage de calories en hiver, une raison suffisante pour enchaîner raclette et fondue, hein, amandes d'or, bien sûr, durant cette période, sans tomber dans la culpabilité. Pour conserver une température corporelle proche de 37 degrés, l'organisme doit effectivement produire davantage de chaleur lorsqu'il est exposé longuement au froid. La fraîcheur fait alors qu'on brûle plus de calories pour se réchauffer. Si vous passez toute la journée en plein air, effectivement, il vous faudra plus de calories. Mais si vous travaillez à l'intérieur, avec des déplacements standards, vous n'aurez pas besoin de manger davantage, dit le médecin. Nos besoins ne diffèrent pas vraiment finalement puisque nous portons des vêtements chauds et vivons pour la plupart dans des bâtiments chauffés. Et comme on a tendance à faire moins de sport à cette période de l'année, les besoins caloriques réels du corps sont même souvent inférieurs.
Ah !
Donc les gars, désolé, mais les « tiens, je me fais plaisir, c'est l'hiver, de toute façon j'ai besoin de plus de calories », en fait c'est faux. Limite, on dépense moins de calories l'hiver. Voilà, désolé. Désolé. Trop tard, me dit Jurko. Il est 12h56. Il faut faire une couche de gras protectrice, me dit Harry Coke. C'est la nature qui veut que je mange raclette, docteur, c'est pas mon choix. C'est pas chauffé chez moi, je peux manger plus, me dit Henry. On va dormir les fenêtres ouvertes alors, me dit Stacy. L'alcool, c'est des calories, me demande petit Jeanche. Putain, et moi qui fais 18 raclettes par jour, ni Marceau. L'info me plaît pas, donc elle est fausse, me dit Warzar. J'aime beaucoup cette philosophie. Encore une invention commerciale. Trop bien. sondage. Samuel doit-il se promener nu dans Paris? Oui, il s'est engagé 85%. Non, je ne veux pas voir ça, 15%. Ok. Merci pour le sondage. Ça ne prend pas en compte l'augmentation des rapports sexuels pour lutter contre le froid. Ah bon? Ok. Très bien. Je n'étais pas au courant de cette statistique. Est-ce que l'alcool réchauffe vraiment? Hein? Faux. Selon une vieille croyance, l'alcool permettrait au corps de garder sa température, voire de se réchauffer. C'est pourtant tout l'inverse, dit la docteure Julieta Quesada. Malgré votre impression, boire du vin chaud ne vous réchauffera pas. Lorsqu'il fait froid, les vaisseaux sanguins se contractent pour garder un maximum de chaleur autour des organes vitaux, comme les cœurs et le cœur et le cerveau. Mais l'alcool interfère directement, les vaisseaux se dilatent et le sang afflue vers la peau. Cette pulsation sanguine vous donne l'impression d'avoir chaud, alors qu'en réalité, le corps est en train d'évacuer la chaleur. Résultat, la température centrale baisse sans qu'on s'en rende compte. Ah ouais? Car l'alcool fausse notre perception du froid. C'est pas tant que t'as plus chaud, c'est que tu sens moins le froid. Il y a Airway qui dit « Non mais Julieta, le docteur, elle est pas très fun en soirée, j'avoue. » Il diminue aussi notre capacité à réagir de manière adaptée, par exemple en enfilant un manteau ou en se mettant à l'intérieur quand c'est nécessaire. Donc l'alcool n'est pas une solution, je suis désolé, je n'ai que des mauvaises nouvelles. Je suis désolé. L'alcool n'est pas une solution contre le froid. Choqué, déçu, me dit Justine. Bah oui, désolé. Désolé. Pourtant, on ressent la chaleur. Oui, oui. Mais c'est pas de la vraie chaleur. 2025, décidément merdique jusqu'au bout. L'alcool, c'est ton ennemi, me rappelle. Col Rampage, mais fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Oh, joli. Je salue Airwave dans le chat qui écrit « L'alcool est une solution » au sens chimique du terme. D'ailleurs, c'est un excellent conducteur, mais pas au volant. Joli. Joli. Alors, est-ce qu'une cure de vitamine C est nécessaire l'été? En partie faux. Les compléments alimentaires peuvent être un allié durant l'hiver, mais ne sont pas nécessairement utiles à tous. Quelqu'un qui possède une alimentation déjà variée, riche en fruits et en légumes, donc ça c'est pas moi, n'aura a priori pas de besoins supplémentaires. En revanche, si vous mangez très gras et vous consommez peu de légumes ou de produits frais, un petit apport en vitamine C peut être utile, dit la docteure. Les études ont d'ailleurs confirmé que la vitamine C pouvait légèrement réduire la durée et l'intensité des symptômes grippaux. Stacy me dit, mon mari me gave littéralement avec des gummies vitamine C. C'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est beau l'amour. En cette saison, vous pouvez privilégier les kiwis et les oranges, dit la spécialiste. Ok, un peu de vitamine C. Sortir quand il fait froid est déconseillé. Faux, une exposition modérée au froid n'affaiblit pas notre organisme. Modérée, allez pas vous mettre en caleçon dehors, là, comme certains foufous proposent. L'alcool fausse aussi notre perception de nos qualités de danseur. Oui, et notre capacité à parler des langues étrangères aussi, Harry. Vous avez tous remarqué comment notre niveau en langue étrangère s'améliorait quand on avait bu? Incroyable ça. C'est magique. Hein? Plutôt prendre des cours de langue à l'apéro. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est tu doutes moins. Tu doutes moins, tu te lâches plus. Voilà. Et donc, ça améliore la confiance. Hélas, la perception de ton amélioration linguistique, elle vient de toi, mais elle n'est pas forcément perçue de la même façon à l'extérieur. Because you can do what we want to do, exactement. Voilà, c'est une question de t'as plus confiance. Mais tu devrais... Ouais. Après, la limite, c'est que c'est pas forcément... pas forcément une bonne chose en soi. Citron violet, je confirme, je suis ivre à chaque live, c'est faux. Salut mon ami Citron. Donc, sortir quand il fait froid déconseillé, faux. Une exposition modérée au froid n'affaiblit pas notre organisme. Au contraire, sortir, prendre l'air. Les geeks là. renforce notre système immunitaire. Merci Pearl, tu régales, merci pour ton Prime. Merci de lâcher ton Prime. L'air extérieur contient moins de virus que les espaces clos. Profiter de la lumière naturelle nous permet de profiter de la vitamine D, ce qui soutient le système immunitaire. Faut sortir, les gars. C'est bien beau, les FPS, les tout ça, là. On sort immunitaire, pardon, pas humanitaire, pardon. Oui, bah, je suis malade, j'ai le droit. Des balades en hiver sont recommandées, ce qui permet aussi de prévenir la dépression saisonnière très répandue. Voilà. Aérer vos logements un petit peu aussi. Je crie pas, je crie pas. Si on sort la nuit, ça marche quand même. Ça marche aussi. Bord de... Non, les balades dans bord de ciel ne marchent pas. Et enfin, faire du sport l'hiver ne serait pas recommandé. Faux. Le sport n'est pas compatible avec le froid. Moi, j'ai couru là en Franche-Comté là, en souhaitant des joyeuses fêtes aux gens. D'ailleurs. Je ris. Les initiés savent pourquoi. Et ça s'est très bien passé. Le sport n'est pas incompatible avec le froid. Le plus dur reste de garder une certaine motivation. L'activité physique renforce même le système immunitaire et peut donc réduire le risque d'infection. Un footing en hiver ne pose donc aucun problème, à condition de bien se couvrir. Les médecins conseillent en général de bien protéger ses extrémités. Alors les extrémités qu'il faut protéger. Pieds. Mains. Crâne. Cou. Il y en a d'autres, mais elles ne sont pas toutes citées. Là encore, il est préférable de pratiquer un sport en extérieur, insiste le médecin. Il vaut mieux ne pas s'entasser tous dans une salle de sport pour éviter la transmission du virus. Quoi qu'il en soit, un peu d'exercice reste le meilleur médicament pour garder la forme et se protéger des virus hivernaux. Ok. Pas mal cet article. Le cou, c'est pas une extrémité, je suis d'accord, Tedry. Alors, quelqu'un me pose la question du sport en chambre. Alors, l'article dit que faire du sport dehors, c'est meilleur qu'en intérieur. Je pense que pour le sport dit en chambre, je pense que non. Je pense que c'est une exception. Zunta écrit, pour Louis XVI, le coup est une extrémité. 775 nous dit, dites ça Antoinette. C'est magnifique. Vous êtes très en forme. J'adore. Magnifique. Eh ben, c'était pas mal ce matin. Merci les amis. On s'est régalé ou on s'est pas régalé? Allez, c'est reparti. La revue de presse tous les jours. Lundi, vendredi, 9h-12h. 10h-13h, ça dépend. Ce matin, c'était plutôt 10h-13h. Voilà. Et je serai là demain. Et je serai là mercredi, et je serai là jeudi, et je serai là vendredi, et je serai même là samedi pour une revue de presse des bonnes nouvelles. Samedi après-midi, mais du coup je ne streamerai pas samedi soir, je resterai en famille, je supprime ma soirée gaming du samedi soir. Voilà, faut pas streamer tout le temps. Voilà. Même jeudi premier, faut que je voie avec mon épouse. Faut que je vois avec mon épouse. Je verrai. Vite fait, peut-être. En vrai, commencer la nouvelle année ensemble, ça peut être cool. Voilà. Et puis, on se retrouve... j'ai discuté avec Elidia, là. On va se retrouver en fin de journée, début de soirée, pour du valo ensemble. Ouais, on va se faire un petit peu de valo ensemble, avec Elidia. On va faire du enquête, je pense. Ce soir, là. Fin de journée, début de soirée. Voilà, avec l'ami Elidia, avec Célia. Malgré la différence de niveau, hein. T'as une soirée de prévue le 31 avec les enfants et avec Hélène. Petite soirée de nouvel an avec les petits puis avec mon amoureuse. Ouais. Merci pour ce matin, c'était un régal. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce matin, à tout participer au débat. Merci à ceux qui nous ont écoutés en podcast audio pour participer pas au débat, mais on est très content que vous soyez là avec nous. Et cette revue de presse en podcast audio, vous la retrouvez tous les jours à partir de 15-16h sur tous les podcasts audio, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts, etc. Allez, maintenant on va faire un raid, c'est-à-dire qu'on va envoyer tout notre joli public de beau gosse chez quelqu'un, elle serait pas en live, Elisa, non, je crois pas. Qui y a là? Il y a du monde, hein. Vous êtes nombreux le matin, c'est fou. Oh là, on l'embarras du choix, en vrai. Il y en a du monde, hein. Oh, il y en a du monde. Il y a un monde fou, hein. Ah, c'est qui ça? C'est marrant, ça. Ok. Eh oui. Je vois plein de gens, ouais. Bah pourquoi pas, en vrai. Ouais. Bah oui, écoutez. Je vois plein de propals sympas. J'hésite un peu. Bon, en fait, toutes vos propals sont sympas, en vrai. Oh, il y a trop. Ah! Alors, je vais vous envoyer sur. Alors, en vrai, toutes vos propositions sont bonnes. Il y a plein de gens très, très cool en live. Mais il y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup pour plein de raisons. Des raisons. Comment dire? Des raisons évidentes parce que le contenu est super et le mec est génial. Mais aussi parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de parler récemment et. Et qui m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touché. Et donc, voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Kenny, que vous connaissez bien sûr. Et donc, on va aller voir Kenny, qui est en live actuellement. Hop. Let's go. Il est sur quoi, le Kenny, là? Il est sur The Last Caretaker. C'est quoi, ce jeu? Allez, on va voir Kenny. Ça a l'air pas mal du tout. Les amis, un grand merci. Fin de journée, on va retrouver Elidia pour un petit peu de valo. Ça va être trop sympa. Bonne fin de journée. À demain matin pour la revue de presse. Et à ce soir pour du gaming. Des bisous. Et merci pour ce matin. C'était trop bien. Ciao.